l'absence de Phil, je rappelle que Phil est en France, on l'aime beaucoup, il va revenir. À l'absence de Phil, j'ai, je pense, la remplaçante parfaite pour Phil parce que j'ai quelqu'un qui aime pas faire de podcast et qui est arabe, comme Phil.
Phil a haï faire les podcasts?
Il a haï ça.
Il est tellement bon,
je sais, je sais, mais à chaque fois, hey, on fait ça dans deux presses, un autre! oui, Phil, un autre!
Dude, moi, c'est mon meilleur podcast. C'est mon podcast favori de toi.
Mais c'est très gentil.
Vous êtes incroyable, vous êtes tellement cute. Votre bromance est adorable. Mais tout le monde a l'air de, comme, victimiser Phil dans les commentaires, non? Comme, il pense que
voulu.
Toi, t'es comme
ouais.
un problématique, ouais. puis lui, c'est un ange.
Oui.
C'est-tu ça, la réalité de votre dynamique?
Non, okay. parce qu'il faut jamais oublier, Phil mesure 6 pieds 2.
Ouais.
Phil est très musclé. Ouais. Et Phil, volontairement, vient au studio. Je veux pas chez eux le kidnapper avec des cordes, le mettre là en disant « parle de Leonardo DiCaprio ouais. pendant 3 heures ». Il fait ça volontairement.
Volontairement, son c'est son sujet gré. Préféré.
C'est son sujet ouais. préféré. Et il est algérien, selon lui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça.
Oh, on peut choisir notre nationalité maintenant?
On peut faire ce qu'on veut.
OK. Fait que pour comme comment... Son un, père, pourquoi il a choisi...
Son père a grandi en Algérie.
Ah!
Mais c'est un blanc qui s'est fait mettre dehors de l'Algérie.
Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, les pieds noirs. À une époque, l'Algérie, il y avait beaucoup, beaucoup de Français là-bas. Okay. Les Algériens ont fait, les Français, ça va faire.
Ben,
le père... Ce que j'ai compris, le père à Phil était là-dedans.
Mm-hmm.
Alors, Phil est algérien. Il n'est jamais retourné en Algérie, je pense. Il veut vraiment... il est allé au Maroc, par contre, il a vu l'Algérie, ça fait beaucoup bouger. Beaucoup, ça le touche beaucoup.
Mm. Il a pas, Mais est-ce qu'il est né en Algérie, son
il est
père?
Né au, il, est né à Montréal, il est né au Québec.
Fait qu'il n'est pas algérien.
Non! Non! Non!
Ah, je voulais juste spécifier, non. parce que ça avait de l'air.
Non.
C'était comme si... Mais
il,
non.
Il est d'où tu penses qu'il est.
Qu'il ouais. ouais. Que repentigné.
Mm-hmm.
Un gars de repas. OK.
Yeah. Mais toi, tu viens du Sud.
Sud?
Oui. Tu viens du Sud, mais il y a une semaine dans le Sud.
Ah, OK.
Non,
oh, je pensais qu'on parlait
non,
de
non,
nos
non,
origines.
Non, 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 okay. non, non, non,
non. Oui, je reviens du Sud, oui. Je suis allée dans un pays communiste.
Ouais?
Ouais.
C'était à Cuba?
Oui, j'étais à Cuba.
Et c'était comment communiste?
C'était vraiment cool pour quand t'habites pas là. C'était nice. Il y avait des belles places. C'était cool. Non, honnêtement, je suis allée seule. Puis une des choses que j'ai préférées de mon voyage, c'était vraiment les conversations avec les Cubains. Puis j'ai trouvé que malgré la situation, moi, la fille dans un tout inclus, puis eux, les gens qui travaillent pour les gens qui vont dans un tout inclus, comme j'ai trouvé que je suis tombée sur du monde vraiment fucking smart, puis vraiment ouvert, qui voulait absolument comme, ouais, real talker. Puis peut-être qu'ils sentaient qu'il y avait comme l'opportunité de le faire, ou I don't know, mais j'ai dit... Très, très bonne conversation, touchante, comme triste, mais vraiment enrichissante, puis vraiment intéressante. Puis...
De quoi tu faisais jaser?
Ben, juste comme leur réalité, tu sais, la réalité de juste pas être capable de partir du pays à moins que. Ils m'ont nommé vraiment toutes les conditions si je n'étais pas au courant des spécifications. Mais comme, tu sais, il faut que tu aies une maison à ton nom, il faut que tu aies minimum 3 000 $ dans ton compte de banque. T'sais, ils se font en moyenne 20 $ par mois.
Ce qui est très long à obtenir.
Oui, c'est très long. Après ça, vous se remplissez toutes les paperasses. Il y a plein de choses. Il faut que tu aies une très bonne raison de revenir. Il faut que ça soit comme clair que tu vas revenir. Wow. Parce qu'ils insinuent que tu vas juste quitter. T'sais.
Ils insinuent ou ils savent?
Ben, ils savent, là, je sais. Puis, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a parlé qui avait même une lettre de vraiment comme c'était officiel, d'une école, etc. Il a rempli tout le paperwork, puis il s'est fait refuser. Puis ça faisait 3 mois, fait qu'il était encore comme endeuillé de ça. Puis tu sais, c'est tellement des longues démarches. Puis c'est juste un peu... Ouais, c'est capoté de penser à ça, de comme... C'est la réalité de comme énormément de gens là, dans le monde. Je veux pas devenir lourde, mais... T'es emprisonné dans ton
pays. En Russie, ça n'a pas l'air mieux. Là,
non,
quitter,
non, non.
Puis, je pense pas que tu peux juste rentrer et quitter facilement.
Ben, ils ont quitté pour aller à Cuba parce qu'il y en avait en demandeur.
Oh, il y a des Russes?
Il y avait tellement de Russes.
OK, c'est comment?
Mais Cuba, c'est genre des Russes, là. Cuba, c'est... Mais moi, je savais pas, mais tout le monde me disait, ah, tu vas voir, il y a tellement de Russes, il y a tellement de Russes. Puis t'arrives, puis c'est des Keb, puis des Russes. No joke, il n'y a personne d'autre. Ah, il y a peut-être comme une couple d'Ontariens.
Pas aller souvent au Costco.
Ouais.
Mais les rares fois que je suis allé au Costco, ce qui est particulier d'aller au Costco, c'est qu'il faut pas que ça soit la seule idée que tu te fais d'un peuple. Parce que, mettons, quand tu vois des Polonais au Costco, c'est pas les meilleurs Polonais. Quand tu vois
Qu'est-ce que tu veux dire?
Il y a personne
qui est à son meilleur au Costco.
Personne. Personne n'est à son
comme,
meilleur.
Honnêtement, je pense fondamentalement le contraire parce que c'est comme le meilleur endroit.
Surtout que le meilleur endroit, c'est le Costco. J'aurais jamais cru ça. Wow!
Je suis arabe, yo! J'adore les gratuités, man! Yo, il y a tellement de gratuités!
Peut-être toi, t'es pas ton meilleur au Costco, ça veut dire.
Moi, je suis à mon best parce que les Arabes, ils sentent comme détendus quand on leur donne gratuitement des choses comme, genre, tu cherches la meilleure deal, pas besoin, je te l'offre, genre, même pas besoin de payer, comme, of course, je suis à mon best! Of course! Mais pourquoi tu détestes le Costco et ses citoyens?
Comment dire? Personne qui s'habille. Je suis mal placé pour parler. Mais il y a personne qui est sur son 31 au Costco. Le néon est épouvantable au Costco.
Ouais.
Ce qu'on achète au Costco, c'est tout le temps gênant et en quantité gênante au Costco.
Comme quoi? Qu'est-ce qui est gênant?
La seule chose que j'aime au Costco, c'est les employés. Parce que c'est les employés qui sont le mieux payés.
Ils sont tellement bien traités.
Oui. Eux, leur manière, c'est on veut pas de syndicat. Comme on n'aura pas de syndicat, c'est pas en faisant des trucs anti-syndicalistes.
Ouais.
On va tellement donner des bonnes conditions.
Ouais.
Que à quoi bon créer une union?
Non, mais
c'est bonnes
incroyable,
conditions.
Le Costco. Ouais. Là. Très bonnes conditions de travail. Qui fait que t'aimes pas les néons. Mais c'est parce que ça. Tu sais, je veux dire, ils pourraient pas rendre ça chaleureux. Je veux dire, l'idée, c'est un factory.
Je comprends.
C'est un entrepôt.
Je comprends.
Puis les gens veulent tellement rester longtemps parce que c'est un paradis, on va se le dire.
Je comprends.
Que si tu mettais des lumières douces et chaudes, un blanc chaud, les gens partiraient jamais. Là.
C'est comme ça. T'as raison.
Okay,
c'est tellement extraordinaire qu'il faut mettre une petite épine pour que le...
Exact!
Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire.
Je sais pas si t'es au courant de l'inflation au niveau des poulets barbecue, mais comme au Costco, tu peux... Non, mais c'est un thing, là.
Oui, oui.
Mais comme au Costco, c'est 6,99. Puis je suis pas à l'aise. Moi, je suis végétarienne, puis je pense pas qu'un poulet, ça devrait...
Je comprends.
Valoir 6,99 au prix coûtant.
Je comprends.
Ça veut dire que le poulet, sa vie, là, elle vaut genre, sûrement genre 50 cents.
Pas grand chose.
Vraiment triste.
Mais tu veux dire
mais
que.
Mais tu veux dire, ouais. Mais c'est 6,99. Fait comme, puis mettons au IGA, là, c'est rendu genre 12,99. Moi, je sais parce que j'en achète pour mon chien. Puis je sais,
wow, t'es la meilleure maîtresse
mais
de chien.
Mais j'en mets un peu dedans. La bouche
t'achètes
sèche, dégueulasse.
T'achètes du poulet pour ton... C'est
ben,
extraordinaire!
C'est une vieille madame de 12 ans. Je sais, c'est sa seule joie de vivre, c'est manger, adore la journée.
Je critique pas, Non, c'est génial.
Ben, faut là, c'est mon ami.
Bien sûr. Mais je suis d'accord avec ça.
Je braillais.
C'est correct. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui voit... Moi, c'est une des raisons pourquoi c'est pas tout le monde... C'est pour ça que moi, j'ai pas de chien.
OK, passe.
Moi, pour moi, c'est un toutou. Mais c'est pas un toutou.
Je comprends.
Il mérite pas ça.
Non.
Aucun chien mérite.
Non.
Aucun chien ou aucun chat mérite.
Non.
Fait que je peux pas.
Mais dans le sens, est-ce que tu vois tous les animaux comme juste des. Comme bibelots à ton existence?
Ouais. C'est pour ça que je peux pas en avoir.
Aucune,
je peux pas en avoir.
Aucune valeur.
Aucune.
Arrête, moi, dis-moi pas ça,
mais
ça me fait la peine.
Mais j'en ai pas.
T'es spéciste, ça veut dire.
Exactement. Alors, je protège les animaux
mais ça,
de
je
mon
respecte,
biais.
Je respecte. Mais
il y a plein de gens qui il y a bien des
animaux
qui...
là tu trouves qui ont comme pas vraiment genre tu lutterais un oiseau en char ou un renard ou un cerf c'est comme m'en calisse c'était des figurants dans ma vie.
Je dirais jamais genre boum je m'en calisse c'était des figurants dans ma vie. Je ferais jamais ça mais je serais pas bouleversé. Et bonne nouvelle,
même pas un peu.
Mais sais-tu quoi? Je le sais pas, ça m'est jamais arrivé.
Okay.
J'ai jamais tué personne en char.
Okay.
Ni un être humain, aucune créature vivante.
Ça, c'est cool.
Aucune créature vivante.
Fait que tu sais pas comment tu réagirais.
Ouais.
Mais quand t'en vois sur le bord de la route,
ouais.
Des marmottes, des renards.
C'est horrible
etc.
ce que je vais dire. Pour moi, ça me fait plus de peine quand je vois des cochonneries que quand je vois des.
C'est vrai, Thomas?
Ouais.
Mais. Pourquoi tu penses que t'as une déconnexion?
Parce que j'ai une déconnexion. J'en ai jamais eu dans ma vie. Fait que j'ai une déconnexion.
Okay,
je suis né en ville.
T'as jamais eu de chat?
Jamais eu de chat. Je suis né en ville. Je suis allergique. J'en ai quasiment
t'es allergique à quoi?
À tout. C'est ça. Une fois, à Gatineau, j'ai fait du cheval.
Okay, je commence à comprendre.
Voilà. Fait que je sens qu'ils m'aiment pas.
Je comprends. Mais c'est peut-être plus une affaire de génétique. Mais
non. Je pense qu'ils ont tout fait exprès.
Okay.
Ils se sont mis ensemble.
Qui ça? Tous les animaux.
Tous les animaux, ils ont fait une table ronde, un chat, un chien, un cheval. Ils se sont dit, le vac, on le file pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour qu'ils tous qu'on est là. Deal.
Okay.
Depuis ce temps-là, je suis comme ça. Fait que je me dis, vous m'aimez pas, mais moi, je garde mes distances. Mais une fois, j'ai fait du cheval à Gatineau. J'ai flatté le cheval, j'ai donné des bisous au cheval.
Puis après, t'avais la face enflée.
Ouais, pendant
c'est
trois semaines.
C'est vrai, Thomas! Pendant trois semaines?
Trois semaines.
Un cheval. Trois,
un cheval.
Personne n'est allergique aux chevaux. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie.
Je l'étais. Te jure. T'es un gars de ville qui n'est pas fait pour les animaux.
C'est tellement intéressant. Fait que tous les poils de tous les animaux.
Ouais. Ouais. Je suis sûr que les ours, je pourrais pas. Si maintenant je pouvais caresser un ours, là, il se laissait faire.
Ben, idéalement, tu caresses pas un ours. Là.
Pourquoi pas? Ça a l'air fun.
Ben, non. Faut pas caresser un ours. Yo. C'est vraiment dangereux.
J'ai une tribune, puis je vais l'utiliser. S'il y a des ours près de chez vous,
non!
Va vers l'ours. Il est correct.
Est-ce c'est que tu connais les règles par rapport aux...
C'est de la propagande.
Non. Connais-tu les règles par rapport aux ours?
Rien, parce que je suis né dans Rosemont, petite patrie. Okay. On n'en voit pas beaucoup. Je par contre, pas. Je connais toutes les règles par rapport aux pédophiles d'impact. Ça...
Aux pédophiles d'impact?
Très des
c'est
parcs.
Qui l'impact? Ah, oh, des parcs.
Très, très jeune,
ah,
on se faisait coacher.
Ah, OK, dis-moi. Qu'est-ce
qu'on fait? Tu cries. Okay. Puis il s'en va.
Mais les ours, c'est comme différentes couleurs, il y a des différentes réactions qu'il faut que t'aies. Mais quoi? Live, je veux pas nécessairement le dire parce que j'ai peur de me tromper.
Oui, mais c'est...
Mais je sais... Ouais, vas-y.
Bon, c'est un podcast. Fait qu'on fait comme Joe Rogan, on dit des informations pas claires.
OK, c'est que je pense que noir... J'ai peur que ça soit tout à l'envers. Mais je pense que... Faudrait que quelqu'un check en même temps.
Check again.
Grizzly, je pense que tu pries pour ta vie. En tout cas, c'est des rimes, genre.
Okay, grizzly,
mais c'est en anglais, mais là, je viens de le translate.
Ah, c'est génial. Grizzly, tu pries pour ta vie.
Parce que dans le sens, bonne chance.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que tu peux faire. Après ça, je ne veux pas mélanger entre le brun et le noir, mais il y en a un qu'il faut que tu t'immobilises puis tu te couches à terre. Il faut que tu juste sois comme absent, zéro une menace, puis que tu disparaisses le plus possible. Puis l'autre, il faut que tu t'agrandisses, puis tu cries, puis tu fais « waouh, waouh, waouh ». Faut que tu t'agrandisses, mais je sais pas quel est quel. Mon feeling, c'est que brun, faut que tu te couches, puis noir, faut que tu t'agrandisses. Mm-hmm. Mais je veux pas que personne meure.
Et on se parle, on fait quoi?
On se parle, oh non, excuse! C'est ça, grizzly, c'est un des deux, c'est brun et grizzly, ça m'a fait. Excuse, puis c'est blanc, pris pour ta vie. Parce que wow. Ça, il y a rien à faire.
Il y a rien à faire que
oui,
les...
c'est ça.
Oh,
OK,
ouais.
C'est ça, merci de l'avoir dit, parce que j'avais obligé...
Les ours polaires, c'est les pires.
C'est les pires. Ouais, c'est comme des fous.
Wow, bonne... Ben,
ils ont faim, tabarnak.
J'imagine.
Ils ont faim, il n'y a plus rien.
Je comprends.
C'est pas cool, leurs conditions.
C'est vraiment pas cool,
honnêtement, c'est un cauchemar pour eux autres, live. En tout cas. Mais, fait que ça, mettons, les animaux, tu sais, les feux en Australie, comme la forêt amazonienne, toutes les espèces qu'on est en train de perdre. Tu sais, mettons, toi... Quand tu penses à ça, ça te fait-tu de la peine ou pas tant?
Ça me fait de la peine, comment dire? Moi, les animaux, je les laisse tranquilles.
C'est comme vous êtes dans deux mondes.
Ouais!
OK.
Il y a de la ségrégation entre moi et les animaux. Ils font leurs propres affaires, je fais mes propres affaires.
Okay.
Mais ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mm-hmm. En tant que race supérieure sur la Terre. Mais on est la race... T'es pas d'accord? Mais t'es pas d'accord?
Non, moi, je suis vraiment un... J'adore parce que je t'aime tellement, Thomas, mais c'est... on est quand même... Là, si on parle de l'autre fois qu'on était dans le village, puis on était au bar, puis là, on parlait des affaires, puis ça m'a fait très parce que je réalise, peut-être en vieillissant, je me dévoile plus, puis je réalise que j'ai quand même des valeurs comme alternatives à certains niveaux. Mm-hmm. Mais c'est vrai par rapport aux animaux, je suis très, très sensible aux animaux, très, très sensible. Mon premier graffiti, quand j'avais 13 ans, c'était un graffiti sur le Kentucky, à Gatineau, sur un Gréber. OK. Puis c'était un poulet déformé avec genre une patte dans la tête. Puis c'était écrit « Miam, du bon poulet aux hormones!
» Je respecte tout de ta démarche. Je respecte tout de ta démarche. Tout, 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 tout de ta démarche.
Yo, c'est tellement triste parce que mon frère était chef de corps là-bas.
Pourquoi?
Puis il était en tabarnak.
Parce que c'était toi, parce qu'il reconnaît tes dessins?
Non, il savait. Ben non, c'était comme mon premier dessin. Comme c'était mon premier vrai. J'étais allée au Canadian Tire, j'ai acheté du spray paint. J'avais jamais fait ça.
T'avais un appel?
J'ai su.
Ton premier dessin est politique.
J'ai vu quelque chose. Je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai pris connaissance de comment ça se passait dans les méga porcheries, puis dans le système industriel de l'élevage animalier. Puis ça m'a traumatisée. C'est comme je le savais pas avant. Je le savais pas comment ça se passait. Puis là, genre 12-13 ans, j'ai appris. Puis j'étais... Il y a quelque chose qui a brisé là, dans mon cerveau.
Wow!
Puis il fallait... Puis c'est ça. Puis dans le reportage que j'avais vu, c'était comme les usines qui font de ça au Kentucky. Fait que j'avais... Puis tu sais, ils en achètent, là, des poulets, là.
Ouais, beaucoup.
Moins que le Costco, en tout cas. Là, tu vois, contredis parce
on
que
se contredit,
je
mais c'est...
Non, mais c'est parce que c'était pas mon chien, être, c'est pas pour moi, elle est carnivore.
Être conséquent à 100%, bonne chance.
Ben, je sais, non, mais ça se peut pas.
Non seulement ça
mais
se peut
pas.
C'est pas
mon chien, ça.
Tout à fait. Tout à fait. Puis,
elle est carnivore.
Il semblerait que les diètes... Hey, ça aussi, vous pouvez rire de moi, c'est faux. Les diètes végétariennes pour les animaux, c'est pas la meilleure affaire.
Mais non, mais c'est pas des végétariens. C'est des carnivores. Tu peux pas être végétarien quand t'es carnivore.
Mais là, je vais revenir ma position par rapport à quand tu quand il y a des feux en Amazonie puis quand il y a des espèces animales qui crèvent. Ça, en tant que respirateur, quand je parle de respirateur, je parle de l'être humain. Je finis ma pensée même si t'es pas d'accord.
Mais est-ce que tu reconnais, oui ou non, qu'on est supérieur juste parce qu'on a inventé les armes? Parce que si on n'avait pas d'armes, on serait pas super.
On a juste des outils, c'est tout. Juste qu'on est des pouces, puis on est capable de prendre des affaires.
Ben, il y en a d'autres qui ont des pouces. Mais nous, on a développé comme des armes. Ils ont des pouces. Sinon, on serait pas la race super.
Puis des podcasts. Il n'y a aucun siège avec des podcasts aussi. On ne construit pas juste des armes.
Ben, il y en a des vases. Bref. Ils ont des faces d'humains. Ben, oui. Mais continue. OK, fait que race supérieure.
Quand t'es au sommet, ça veut pas dire que tu dois écraser les autres. Fait que ça fait beaucoup de peine. Quand t'es fort, t'es censé protéger les autres. Qu'on protège pas la faune, qu'on protège pas la flore, ça me fait beaucoup de peine. C'est quand la force, ça se démontre pas pour à quel point tu peux écraser les autres. La force, ça se démontre à quel point tu peux aider les autres.
Exact.
Fait que ça me fait de la peine.
T'sais, le système, c'est pas mal tout le contraire là, en ce moment.
Je comprends.
T'as déjà essayé d'être végétarien?
Moi, jamais.
Okay. Mais jamais, c'est parce que t'aimes beaucoup la viande. Genre, t'aimes le goût de la viande. T'aimes la viande.
Pour moi, c'est facile. C'est vraiment une question de mon manque d'éducation. Et je cuisine pas beaucoup. Pour moi, la viande, c'est juste facile.
Je comprends.
Et c'est une excuse très, très, très faible, mais c'est pour ça que je mange la viande.
Il n'y a pas d'excuse. Moi, je suis comme tellement pas dans le jugement. Je pense que tout le monde devrait 100% vivre la vie qu'ils choisissent, mais qu'ils veulent. Mais moi, c'est juste j'ai perdu l'appétit, en fait. C'est vraiment juste j'ai comme perdu l'appétit.
T'as arrêté de manger de la viande quand?
À 15 ans.
Wow!
Ouais, tu sais, ça fait longtemps. Là, j'ai pas de craving pour la viande. Fait que je pense que c'est plus normal quand tu dis je pense que quand t'arrêtes plus tard. C'est sûr, un moment donné, ça se peut que ça tente de manger genre ton steak et tout, mais un moment donné, ça fait longtemps, j'ai comme oublié. C'était quoi?
T'as fait des graffitis combien de temps? Je trouve ça génial.
C'est mon seul, la vie!
T'as fait un graffiti?
Oui.
Fait un graffiti?
Oh non, j'en ai fait un autre projet chez nous, un moment donné, quand j'étais CMD. C'est de mon chien. Mais il faisait tellement noir, puis je voyais rien. Puis j'ai juste fait mon chien, mais je pense pas. Pas que ça avait de l'air de... Parce qu'il faisait de moi, je voyais pas. Mm-hmm. C'était comme à l'aveugle. Mais c'était mon chien.
T'as-tu repassé devant la
pas
lumière?
J'ai repassé parce que c'est un endroit illégal où t'as pas le droit d'être. C'est comme dans les silos dans le Vieux-Montréal. Là, mm-hmm. Où genre tout le monde va là pour faire des graffitis. Puis je suis pas retournée. Faudrait que j'y aille.
Wow!
Faudrait que j'y aille. Ça, j'avais écrit de quoi aussi, je me souviens plus.
Génial. T'étais toute seule ou...
Non.
T'es en gang?
J'étais avec un ami.
Vous étiez sur MDMA, on va faire...
C'est MDMA, puis après ça, on est allé clubber dans le Vieux-Montréal.
Wow! C'est une belle veillée! T'as-tu clubé, puis genre les mains pleines de peinture?
Non, mais je suis arrivée au club, puis c'était vraiment une genre d'affaire. Je pense que c'est le fly gin. Okay? Genre d'affaire, moi, je clubbe pas. Là, puis ça me tentait pas d'y aller, mais mes amis voulaient y aller. Puis j'habite proche, fait que quand t'allais faire les graffitis, j'étais genre en Crocs. Puis j'avais oublié. Puis à un moment donné, on est juste sur le dance floor, puis là, on est en train de danser, puis j'ai regardé, j'étais en... comme pantoufles. Non, c'était même pas des crocs, c'était comme des pantoufles.
Rien.
J'étais en pantoufles, j'étais tellement crampée. J'étais assez drôle, tout le monde a tellement de l'air beau et parfait. Puis je suis dégueulasse. Puis je viens d'aller spray painter illégalement un patrimoine.
Wow! Montréalais!
Puis j'étais en pantoufles, mais je suis un tonne de merde. Mais j'étais crampée, c'était incroyable. C'était vraiment cool.
Ah, c'était extraordinaire.
Ouais, c'était nice. Ouais. T'as-tu déjà fait des graffitis?
Jamais.
Non.
Parce que mes dessins sont pourris.
Ben non, mais c'était pas fameux, moi non plus. Non, dans le sens, c'est plus. T'as quelque chose à dire.
J'ai rien à dire. Non, j'ai, non, au nombre de podcasts. Non, au nombre de podcasts que j'ai, si en plus, je vais faire des graffitis, là, comme Calis, faut que tu.
J'avoue.
Ça va, là. Ouais, je m'exprime. Là, je pense que l'opinion de Thomas Levac est disponible pour vous, en plus, de faire des graffitis.
C'est vrai. Ouais, t'as peut-être pas besoin d'un mur de brin, j'avoue.
Non. J'ai toujours, par contre, admiré les graffitis. J'ai pensé à ça. Mais si c'est nul ce que je vais dire, c'est on passe à autre chose. Mm-hmm. On a à peu près le même âge. Est-ce que tu as observé la même chose que moi? Dans notre jeunesse, il y avait beaucoup plus de graffitis.
Ouais.
Je veux dire, quand tu mettais des affiches électorales, c'était certain qu'elle allait dessiner. Toutes les pubs étaient dessinées. Il y avait beaucoup plus de graffitis, il y en a beaucoup moins.
Ouais.
Mais il y a plus de haine sur les réseaux sociaux. On dirait que la haine a viré de bord.
Oui, mais je pense que tu l'as dit. Je pense que c'est ça qui est comme... C'est juste ça, notre réalité. C'est que l'information, la publicité est comme plus... juste physique devant nous. C'est plus dans les arrêts de bus, là, nécessairement, qu'on on se fait marteler de pubs. C'est plus sur les réseaux sociaux. C'est plus là où on échange notre avis par rapport à, aux informations qu'on reçoit. Makes sense, tu sais. Après ça, je pense, tu sais, comme, c'est parce qu'il y a plusieurs, il y a des tags, là, mettons, il y a comme des artistes qui font du graffiti, tu sais, il y a comme deux affaires, puis après ça, c'est ça, il y a juste
du monde,
du monde qui vont comme, ouais, des
bousiller,
sur la face de Manon Massé, là, genre, ouais, bousiller, exact. Mais oui, il y a tellement plus de haine sur les réseaux sociaux, for sure,
mais... Es-tu confortable, toi, sur les réseaux sociaux?
Moi, je suis... Bonne question. Confortable, c'est un bon mot. Je pense que c'est pire que jamais au niveau de l'anxiété que ça me provoque. Mais c'est pas par rapport à comme ma pratique puis mon truc à moi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment juste par rapport à l'information que je consomme. Je trouve que c'est rendu trash. C'est comme si notre Instagram puis notre Facebook ressemble de plus en plus à genre Fox News comme en tout temps. Puis c'était pas ça il y a pas longtemps. Puis surtout que maintenant, il y a juste plus de médias nice. Tu sais, qu'on voit plus rien. On voit plus rien qui a rapport avec les médias. Fait que c'est juste trash.
Il y a une loi qui est passée, c'est ça?
Ouais.
Au Canada, on n'a plus accès aux nouvelles. Ouais.
Non, on n'a plus accès aux nouvelles. Tu peux pas partager de l'information. Puis même, il y a comme une semaine, j'ai lu ça ce matin, il y a genre une semaine, par défaut, Instagram met ton contenu politique limité. Puis ce qui veut dire par politique, puisqu'on n'avait déjà plus rien, vraiment. On n'avait pas d'articles de médias reconnus. Là, ce qui veut dire par politique, c'est n'importe quel compte qui est engagé. Fait que, tu sais, mettons, on parlait d'Élise Gravel l'autre jour. Tu sais, je pense qu'à fitrait, ils se font flaguer, là, ces comptes-là. Tu sais, n'importe qui, en fait, peut-être je suis flaguée aussi, tu sais. N'importe qui partage des informations par rapport à comme l'actualité ou un sujet chaud va être flagué. Puis, il faut que tu ailles le changer. Comme tu checkeras tantôt, il faut que tu ailles le changer sur ton Instagram dans tes settings parce que par défaut, ils mettent que c'est limité et que tu ne vois plus les comptes engagés. Ouais. C'est vraiment de plus en plus comme crasse, là, sérieusement, je trouve, là, les réseaux sociaux. Ouais. C'est juste comme des... On est loin des faits, mais vas-y. Ouais.
Ben, je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Là où j'allais dire, c'est aussi, puis je fais de l'humour, des fois je suis un peu coupable de ça, ça crie beaucoup.
Ouais.
Je sens que ça crie beaucoup.
Ouais.
Mais souvent, je peux comprendre crier pour dans la musique ou pour faire rire, ouais. Mais crier pour passer ton idéologie, des fois c'est particulier. Il
ouais.
Y a beaucoup de visage, un micro de même en disant là, on paye pas trop d'impôts, puis là t'as peur. Puis, ok, je sais pas. Les immigrants.
Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme c'est quoi les sujets que tu vois qui reviennent le plus par rapport à juste du monde en tabarnak?
Moi, savoir l'algorithme de l'autre personne, ça en dit tellement sur cette personne-là.
C'est clair.
Plein de gars qui m'expliquent comment être millionnaire en 6 minutes. J'ai beaucoup de ça, moi.
Wow.
Ben des gars musclés, c'est stéroïdes.
Ben, c'est fou comment nos vies sont pas pareilles.
Non.
Toute l'information que tu reçois à chaque jour, à chaque minute est tellement différente. C'est normal qu'on se radicalise. En tout cas, ça me fascine, mais continue.
Beaucoup d'attention aux femmes, ils vont tout prendre.
OK, fait que t'es très comme Andrew Tate, là. T'es le cible d'Andrew Tate, là.
Pas tout à fait.
Non.
J'ai pas encore un pas dedans. Okay. Une fois, j'ai recommencé à aller sur Facebook, et là, j'ai liké, je sais pas quoi.
Ouais.
Puis ils ont dit, lui, il y a Andrew Tate. Puis là, on m'en offrait, là, des gars chauves, là, qui expliquaient. Faut que t'aies un char.
Des gars chauves qui expliquent.
Ah oui, je le sais.
Mais ça commence par Joe Rogan, genre. Après ça, c'est genre. Parce que moi aussi, j'écoutais des podcasts de Joe Rogan dans le temps. Puis. Là, à un moment donné, c'est juste comme devenu de plus en plus problématique. Puis, ça me tentait plus pantoute. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme un slippery slope, là, tu sais.
Ce qui est comique de Joe Rogan, c'est vu qu'il fait une émission par jour de 3 heures.
Ouais.
Tu sais, triper sur Joe Rogan, il y a du monde qui font Joe Rogan tous les jours, 3 heures, let's
go.
Il y a des gens qui sont juste, ah, moi, c'est juste quand il reçoit des humoristes.
Ouais.
Ah, moi, c'est juste quand il reçoit des scientifiques, parce que c'est intéressant voir un scientifique qui parle pendant 3 heures.
Ouais, ouais.
Y en a qui sont juste, ah, moi, c'est juste quand il parle de MMA. Tu sais, ils connaissent ça, les MMA. Fait que triper sur Joe. Des fois, tu peux pas embarquer tout le monde dans le même...
Non, absolument. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'avais oublié aussi son plus grand exploit, je pense, parce que j'étais allée à Cape Cod l'été passé, puis j'écoutais la télé dans mon motel, meilleure affaire, parce que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai plus de télé. Fait comme, écouter la télé, maintenant, c'est comme... genre, c'est incroyable. Puis la télé américaine, en plus. Fait que...
Les pubs d'avocats, c'est la meilleure affaire de tous les temps. Des cabinets d'avocats qui font, hey, moi et mon cousin,
il y a une. Fait de l'affaire! Ouais.
Appelle-moi! Appelle-moi, c'est Better Call Saul, c'est pas une caricature. C'est non. plein de... Ouais,
c'est ah non, pas... c'est capoté. Puis les billboards sont partout. C'est... Mais t'es comme, OK, les gens sont... comme, ils ont besoin d'aide. Comme, pourquoi il y a autant d'appels à des recours, les gars? Ouais. Comme, je sais pas. Mais, que j'allais dire? Oui, le plus grand exploit de Joe Rogan, j'avais oublié, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, que c'était le... l'animateur de Fear Factor, man. Ouais. Donc, j'ai écouté un marathon de Fear Factor. J'ai comme tout le respect que j'avais perdu pour lui, je l'ai regagné en genre 1 an et demi. Là. Genre, il était incroyable dans ce rôle-là.
Si tu oublies...
S'il aurait pu se rester là.
Il y a des réflexions qui sont les siennes et il y a des idées qui sont les ouais. siennes. Mais partir de « Je fais de l'humour à Boston
ouais. »
à j'anime Fear Factor, ouais. à j'ai la plus grosse tribune sur la planète.
Insane.
Ça n'a pas trop rapport.
Ça n'a pas trop rapport. C'est insane. C'est insane comment il s'est rendu loin. C'est fou.
Je pense que même si tu fumes un joint avec, il dirait « Faut pas que le monde m'écoute trop. Là. Je suis un gars de Boston qui aime les arts martiaux. Là.
Moi, je...
Ça se peut que je me trompe.
» Ça se peut que je me trompe. Mais c'est ça, c'est des entrevues tellement longues. Il va dans toutes les directions. Puis comme... Il y a plein de choses qu'il dit. Comme... Il y a de l'air... Tu sais, je veux dire, il est clairement fucking brillant. Puis après ça, il y a des opinions que je partage pas. Puis il y a d'autres opinions que, tu sais, je trouve brillant. Là. Je trouve smart par bout la majorité du temps. Puis après ça, il va dire quelque chose d'extrêmement cave avec lequel je suis pas d'accord, qui est comme un peu comme masculiniste ou anti-vax. Mm-hmm. Puis là, je veux juste comme décrocher puis être comme, oh, calice, comme, il influence tellement de gens. Fait que c'est comme... Mais en même temps, on peut pas s'attendre à ce que une personne... Je veux dire, il n'y a pas de Dieu. Là. C'est parce qu'on met les gens sur un piédestal. Comme... Il y a trop de pouvoir. Là. C'est ça le danger quand tu as comme autant une grosse audience puis autant de pouvoir. Je veux
mais il y a
comme...
du pouvoir parce qu'il se prononce. C'est ça que
c'est
un paradoxe.
Exact, exactement.
Les gens l'écoutent parce qu'il se prononce. Ouais. Ah, mais il ne devrait pas se prononcer, mais s'il se prononce pas, les gens l'écouteront.
C'est très. C'est... En même temps, pas besoin d'être.
C'est mêlant.
C'est mêlant. Ouais.
Aussi, ce que j'ai beaucoup sur mon fil Instagram, ouais, des pubs pour raser le dos. Des pubs. De trucs en plastique pour raser le dos.
C'est quoi un truc en plastique?
J'en ai acheté un, puis ça marche pas. Ça fait juste mal. Ouais, ils m'ont eu.
Attends, un truc en plastique?
OK.
C'est un roller?
Non, un bâton.
OK.
C'est un bâton en plastique. C'est fait en Chine, très loin, là, dans une usine où il y a encore la COVID. Là. C'est fou, là.
OK.
C'est un gros bâton.
OK.
Et là, tu te rases le dos.
OK.
Puis dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu te coupes. Puis ça fait mal. Puis ça rase pas vraiment ton... C'est ça, mais...
Ouais. Puis ça a pas marché.
Non, ça, des souliers très laids. C'est ça, mes mon Instagram, des souliers.
Quel genre de souliers?
Hey, t'aimes ça les Nike, mais t'es trop pauvre pour en avoir?
Oh c'est... non, oh, des ouais. bootlegs?
Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est comme non. une rue à New York, là, où il y a des gars qui vont « Yo,
ben
tu fais des Nike pas chers! »
Ben ouais. oui, ouais. puis qui cover up là, les montres quand il y a une police pas loin, genre, puis qui l'a...
C'est ça, mon Instagram, c'est
non.
ça. C'est une rue un peu trash de Queens. C'est ça, mon Instagram.
Non.
Ouais. Ouais.
Hey, puis par rapport au dos, c'est-tu comme un thing pour toi? Je veux dire, est-ce que tu as déjà considéré l'épilation ou comme le laser?
Ils ont compris très tôt que j'étais un gars de 35 ans, père de famille, que ma vie va...
Qui se délaisse
On va t'aider. Il y a aussi dans Guéric que ma blonde est vraiment plus belle que moi, fait qu'il faut, yo, t'as besoin d'aide.
C'est pas vrai,
c'est très vrai.
C'est tellement wack que tu
pourquoi?
Peux pas te parler de même. Là, c'est pas vrai.
Non.
Tu peux pas dire ces choses-là comme factuellement.
Ben oui.
Mais non, mais... Oui, ta blonde est fucking belle,
ben oui.
mais c'est pas vrai qu'elle est fucking plus belle. C'est pas vrai, vous êtes égal beau.
Non.
Oui.
Non.
Ben moi, je dirais oui.
On n'est pas égal beau.
Ben moi, je dirais ça, ouais. J'ai droit à mon opinion.
C'est gentil, mais je pense... C'est gentil, je pense pas qu'on est égal beau, puis c'est correct.
Ben non, mais moi, ça, je pense. Mais en tout cas, tout ça pour dire par rapport à... Après ça, les filles, tu sais, je veux dire, on se rase, là, toutes... Ben, pas toutes, plusieurs d'entre
nous,
non.
Moi aussi,
nous,
mais pas le dos. Le dos, je me rends pas. Pour ça, je l'ai un rasoir.
Je comprends. Mais tu sais, comme... OK, je comprends. Moi, ça me fait peur, le laser, là, mais je pense... Moi, je suis comme j'ai des gènes arabes, là, fait que moi aussi, le poil, comme il y en a...
Plus rough.
Mais apparemment, c'est un bon candidat, ce genre de poil-là, pour le laser, parce que quand t'es trop pâle, ça marche pas. Mais est-ce que ça a déjà été une option? Parce que je pense que je vais y aller, moi. J'ai peur, là, du laser, mais je pense que je vais le faire, moi.
Je l'ai fait pour mes yeux, fait que ma peau serait correcte.
Ah, mais c'est pas la même affaire, là.
C'est pas même plus peur dans les yeux.
Oui.
En plus, j'ai manqué mon... Quand je l'ai fait, on a manqué notre coup.
Non!
Parce qu'ils m'ont pas dit comment mettre mes gouttes. Puis ils se sont dit que c'était un gars de 30 ans, il est capable de mettre des gouttes. Non!
Non!
Fait que j'ai mal mis mes gouttes, fait que j'ai quasiment perdu la vue, puis ils ont dû refaire mon
laser.
C'est pas vrai, Thomas! J'ai mon laser deux fois. Fait qu'ils perdent la vue. Ma blonde était fière de moi. T'es comme, yes, le père de mon enfant, il est peut-être aveugle parce qu'il sait pas mettre des gouttes. Yes, c'est bon, ça.
Mais je comprends pas. Fait que t'es parti de là, t'avais une prescription à
suivre.
Ouais,
ils m'ont dit, mets des gouttes.
Ils m'ont pas dit... Pourquoi t'es pas mis?
Je les ai mis.
OK. Mais ils t'avaient pas expliqué comment.
Voilà. Il comprend, là, il y a 30 ans, il a déjà mis des gouttes. J'avais jamais mis des gouttes. Et moi, faut tout... dans la vie, là, faut tout m'expliquer.
Je comprends.
Faut juste tout. OK. Tout. Comment marcher, faut tout m'expliquer. OK. Je fais ça avec ma fille, j'explique tout de même, elle est comme... Je suis pas con...
c'est bon.
Je suis pas stupide comme toi, là. Il y a des choses que j'ai compris par moi-même. On m'a pas expliqué comment mettre mes gouttes. Je les ai mis tout croche.
Okay.
Ils coulaient tout le temps, fait que je mettais pas de gouttes.
Je comprends.
Fait que j'ai perdu la vue, fait que j'ai dû le refaire.
Qu'est-ce que tu faisais par te perdre la vue? T'as vraiment commencé à sentir ta vue baisser.
Ouais.
C'est pas vrai.
Ouais.
Lendemain... Y avait-tu un problème? Je sais.
J'ai mal mis des gouttes, ils m'ont leur refait, que tout va bien.
Okay, puis quand t'es retourné, t'es comme, il faudrait peut-être pas être touché tout de suite.
Le lendemain, il faut un examen parce qu'ils savent que
tu n'es
pas intelligent comme moi. En fait, t'as-tu mis des gouttes? J'ai fait oui. Il dit, pourquoi tu me mens? C'est tes yeux, je mens pas. J'ai mis mes gouttes, mais ça paraît pas.
OK, ils comment t'es mis? Ouais. Puis là, t'es genre, t'en mets une dans le front. T'en mets une dans le front, une sur la joue, une sur l'avant-bras. Calisse!
Ils m'ont coaché comment le faire, puis là, tout va bien.
Ah, OK. Eh yeah boy!
Mais
c'est stressant, ça?
Ouais.
Tes yeux?
Ouais.
Moi aussi, j'ai eu une grosse affaire avec mes yeux.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai eu une opération. Moi aussi, j'ai failli perdre la vue. J'ai eu une grosse opération majeure aux yeux. J'ai eu un décollement de la rétine. J'ai failli perdre la vue aussi.
Ouais. C'est arrivé comme ça ou c'est un accident?
C'est une conséquence de une maladie de longue durée.
OK.
C'est comme... J'ai eu des troubles alimentaires vraiment longtemps, pendant comme 10 ans. Puis, c'est comme anorexie et boulimie. Puis la boulimie, ben un moment donné, quand tu te fais vomir comme 5 fois par jour, pendant plusieurs années, la pression qui va vers tes yeux. Puis, ouais, pendant un petit bout, je voyais, là, comme je voyais qu'il y avait des affaires qui se passaient, comme j'avais des cellules qui pétaient autour des yeux. Ouais, des affaires, tu sais... Un moment donné dans l'œil, mais j'avais genre 26 ans, là, j'avais jamais comme catché que je pouvais être aussi fragile.
Mm-hmm.
On pense qu'on est un peu invincible à ce temps-là, t'es comme, ah, OK, oh, je mange pas pendant comme 3 jours, mais whatever, là, je suis jeune, puis comme, tu sais, clairement, j'étais pas inconsciente à ce point-là, mais il y a une partie, une voix dans moi qui prenait plus de risques parce que j'étais plus jeune, puis j'avais jamais vraiment eu de problème de santé, puis. C'était pas ça que je voulais du tout qu'il arrive, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. Mais à un moment donné, j'ai juste commencé à avoir comme flou, weird. Puis ça a duré un peu de temps, puis je suis hypochondriaque, et j'en parlais à du monde autour de moi, puis ça comme, ben non, tu capotes, parce que ça m'arrive vraiment d'avoir des spins de maladie X, là, comme ça m'arrive régulièrement. Mais là, j'étais comme, ah, je sais pas que ça soit un décollement de la rétine, parce que mon père a eu ça quand on était jeune, puis il a fallu qu'il se fasse transporter en hélicoptère pour son opération, parce qu'il n'y avait pas... d'hôpital qui fait faire l'opération quand t'es à Terre-Neuve. Puis ça m'avait vraiment traumatisé. Puis il s'était levé, puis il avait perdu la vue. Puis cette affaire-là m'avait vraiment traumatisé. Puis je sais que j'ai les gènes oculaires de mon père parce que j'ai pas des très bons yeux. Puis je pense que j'ai juste accéléré le processus génétique. Je pense que j'aurais eu un décollement un moment donné, peut-être. Mais plus tranquillement, on l'aurait peut-être spoté avant, mais là, c'était comme... grave, puis il fallait que je me fasse opérer le lendemain, sinon genre, je perdais la vue dans les quelques jours qui suivaient. Là. Ouais, wow. C'était fou.
Wow, t'as-tu remis en question ton trouble alimentaire-là?
Je me suis plus jamais fait vomir.
Ça fait peur, là?
Ben, c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie.
Se faire vomir jusqu'à perdre la vue, c'est wow.
Le pire, là, c'est que c'est vraiment pas... la première fois quelque chose de vraiment trash arrivait. Mm-hmm. Je veux dire, je vomissais du sang régulièrement.
Wow!
Ouais, comme... Oh oui.
T'es habitué, là.
C'est ça qui est fou dans une addiction, parce que c'est trop alimentaire, c'est vraiment une addiction, là.
OK, pourquoi
c'est
tu
comme...
dis ça?
Ben, c'est considéré comme une addiction, parce qu'à un moment donné, c'est un cycle. C'est comme, tu vas pas manger. Mais tout le monde le vit différemment, là. Mm-hmm. Tout le monde, il y a plein de... troubles alimentaires différents. Il y a des gens qui se sont jamais fait vomir du tout. Moi, je me faisais vomir. À un certain moment, je prenais 5 lactatifs par jour. Juste parce que je voulais toujours me sentir légère. J'ai toujours eu ce genre de feeling-là que je prenais trop de place ou que... Ouais, j'étais trop Mon corps était de trop. Puis depuis que j'ai comme 8 ans, je me sentais de même. Puis à un moment donné, ça s'est manifesté avec les troubles mentaux. C'était pas ça au début, c'était juste comme... Ça a commencé parce que mon premier chum à vie m'a laissé, puis j'avais jamais vécu d'amour comme ça, comme pas juste l'amour amoureux, mais comme sa famille. Il y avait tellement une belle famille harmonieuse. On mangeait ensemble, on parlait de politique, il voulait entendre mon opinion. Je me sentais tellement comme valorisée dans cette relation-là. Puis je m'étais jamais sentie comme accueillie complètement comme ça. Puis quand j'ai perdu cette relation-là, puis clairement, ça a pas marché. J'étais tellement awkward, je savais pas comment exister dans l'intimité. Mm-hmm. J'avais jamais été intime avec personne. Même à ce jour, tu sais, je suis super proche de ma mère, je l'adore, mais je suis encore gênée des fois avec ma mère, juste parce que j'ai jamais été habituée d'être comme intime, comme très proche avec beaucoup de monde dans ma vie. Comme j'ai vraiment eu de la difficulté avec l'intimité très longtemps. Puis je parle pas comme sexuellement, mais je parle juste comme être même dans une même pièce avec ma meilleure amie. Mm-hmm. J'ai pas été capable vraiment de faire ça avant l'âge de genre 23 ans. Tu sais, on l'a fait ici et là, mais elle savait, là, j'étais très inconfortable, puis j'ai push through, puis maintenant, ça va bien, je suis capable d'avoir des amis. Mais...
Tu ris, mais ça s'apprend.
C'est comme triste, hein? Qu'est-ce que
c'est triste, mais c'est vrai. C'est triste, on n'en parle jamais, mais l'intimité, ça s'apprend. Avoir des amis, ça s'apprend. Mmh. Être dans un groupe, ça s'apprend.
La confiance, ça s'apprend. Ouais.
Et je pense que c'est Oscar Wilde qui disait ça, je vais mal le citer, mais il disait, des fois, c'est poche, parce qu'on a l'impression que tout le monde a un guide pour vivre à part nous.
Right.
Que tout le monde comprend les codes à part nous, puis on se sent tellement inadéquat.
C'est tellement vrai. Puis en vieillissant, le plus qu'on peut se parler de ces inconforts-là, on le réalise à quel point tout le monde se sent awkward. Tout puis souvent, fait. C'est tellement dans notre tête, puis on est tout en train de se dire que nous, on est la personne awkward, mais tout le monde est en train de se... En tout cas, c'est vrai, ces codes-là, c'est comme on prend pour acquis. Puis souvent, on va se baser sur des films, sur des livres. Moi, ma première relation, justement, je me basais sur ce que j'avais vu dans des films, là. C'était comme si je jouais un rôle, là, le rôle de la blonde idéale. C'était pas moi. Là. J'étais pas à l'aise d'être moi vulnérable.
Je me rappelle en début vingtaine, je m'étais dit, c'était très cynique. Mais une certaine. Bref. Je m'étais dit, ça me prend une blonde.
Ouais.
Pour que quand une fille géniale va arriver, je vais être capable d'être en relation avec elle.
Comme un practice run. Là.
Ça prend de la pratique.
Ouais, ouais.
Comme n'importe quoi.
Je comprends ta réflexion.
Pas que. Puis aussi, c'est pas ça prend n'importe qui, mais ça, oui, l'intimité, oui. Ça se développe. Être avec quelqu'un, ça se développe. Ça... Oui. Ouais.
Ah, c'est fou. Puis c'est triste qu'on peut pas juste te dire, hey, je vais manger pour être prêt quand la bonne personne arrive. Parce que c'est comme. Il n'y a pas de pratique.
Puis ironiquement, quand la bonne personne arrive, tout est naturel. Right. Tout est super.
Ça tombe.
Ça dit bien, ça tombe.
Ouais. Mais.
Ça tombe en place, c'est bien dit.
Oui, ça tombe en place. Mais en tout cas, en gros. Quand il m'a laissé, puis je veux dire, il avait 100% le droit de me laisser, puis j'étais pas la baisse.
C'est pas ça que tu dis. C'est pas ça que tu dis.
Non, c'est ça. Puis j'étais juste comme. C'est ça, j'étais pas capable d'être intime. J'étais pas comme sincère. Tu sais, ça a dû sentir que j'étais pas capable d'être comme 100% moi-même. Là. Je savais à la limite peut-être même pas j'étais qui. Là. J'avais genre 16 ans, tu sais, 16 ans. Fait que quand il m'a laissé, ça m'a vraiment comme. C'est comme j'avais goûté à l'amour, puis là, je le perdais, puis ça m'a vraiment traumatisée. Puis là, je suis allée comme au Mexique accompagner mon meilleur ami à sa mort. En tout cas, whatever. Longue histoire.
Mettons, on fait une parenthèse sur ce que tu viens de dire.
Non, mais c'est parce que je sais même pas si je devrais comme raconter ça. Mais c'est correct. Comme je peux le dire vaguement, mais même avec le temps, j'ai peur d'avoir distorsionné mes souvenirs, mais en gros... J'avais un ami à l'époque qui allait vraiment pas bien. Puis, il avait fait comme 2 tentatives de suicide, je pense, à ce moment-là. Il était accro aux potes, puis c'était comme un vrai, comme, tu sais...
Oui.
Vraie conséquence de potes. Ça se peut, ça
existe. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui l'ont. Right. On comprend.
Exact.
Il y a des gens qui vivent très bien avec ça, d'autres moins.
Oui, exactement. Fait que... Puis
les gens qui fument du weed puis qui aiment ça, écrivez pas en commentaire à quel point c'est cool, puis il y a une étude qui dit que c'est exceptionnel. Oui, t'es heureux, c'est correct. Ouais,
exact. Bien dit. Fait que, en tout cas, pour plusieurs raisons X là, que je mentionnerai pas, il voulait comme s'en aller, puis comme moi, c'est fini. Fait que soit que je le fais ici, ou soit que je m'en vais au Mexique le faire. Puis là, moi, j'étais comme, OK, ben je vais t'accompagner au Mexique. On avait genre 17, j'étais pas majeure. Puis j'avais pas de passeport. À ce moment-là, tu fais voyager avec un certificat de naissance, là, puis une carte d'assurance maladie. Puis je suis partie comme sans le dire. Je pense que je l'avais dit à ma mère. Oui, je l'ai dit à ma mère, mais je l'ai pas dit à mon père. Mon père a essayé de nous faire bloquer aux douanes. En tout cas, bref, ça pour dire que j'ai dit, ah, je vais t'accompagner. Puis, mais secrètement, j'étais comme, ah, ben, je vais comme, ça va tellement être le fun, je vais y redonner goût à la vie. Genre. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on est allé en autobus de Gatineau au Mexique. Ça m'a coûté.
Ça se peut faire ça?
C'était genre 180$. No joke. Ouais,
combien
ça
de temps?
Se peut. Ça a pris 5 jours. Ouais.
5 jours dans un Greyhound près au Mexique.
5 jours dans un Greyhound. Puis les Greyhounds ici sont nice, là. Mais à partir de genre Détroit,
c'est moins
c'est
nice.
C'est de pire en pire. Puis là, t'arrives au Texas, puis là, tu peux pas sortir de la station Greyhound parce qu'il y a des stabbings. Genre, puis nous, on n'avait jamais rien vu à part, genre Gatineau.
C'est rough. Il y a des bouts de Gatineau qui sont rough.
Ah, c'est rough, oui.
Une fois, j'ai joué au hockey avec un gars de Gatineau qui avait. Moi, je viens d'un bout de rough, puis.
Ah, oui.
Rough, là, genre des gars sur le speed qui se battent à 2h l'après-midi.
Oh, 100%.
Là.
Non, mais Gatineau, moi, je viens du hood de Gatineau. Là. Fait que,
tu les connais, ces gars-là.
Ouais, comme.
Dans le jeu vu, mettons.
Oui, il y allait à mon école secondaire, là, c'est clair. J'allais à la numéro 1 pire école, moi, du Québec. Ouais. Ça, c'était en tout cas. Bref. Ah, ça pour dire que.
Comme Phil, t'allais à la meilleure école du Québec, toi, la pire. Fait que ça, c'est un truc.
Qui est allé à la meilleure?
Phil, t'es
à
la notre. Mais
c'est vrai?
Si t'écoutes Phil, c'est la meilleure.
Oh my God, OK.
En passant, si tu rencontres Phil, puis tu veux passer une bonne demi-heure, dis jamais que Notre-Dame, c'est pas la meilleure affaire que la planète.
Notre-Dame de quoi?
Pas de Paris, là. Ça
non, mais de Lourdes?
Notre-Dame...
À Longueuil?
Non, à Montréal.
Ah, allez, OK.
Tout ça pour dire. Fait que là, t'es au Mexique avec
bref,
ton...
tout ça pour dire, je me suis dit... Je sais pas, je me suis mis en tête qu'il m'avait laissé parce que j'étais grosse, genre. En tout cas, okay. Je sais pas, j'étais comme, tu sais, puis c'est un peu un âge, j'ai gros, genre 15, 16 ans, comme... Tu sais, j'étais un bâton quand j'étais jeune, puis là, je commençais à avoir des seins, je commençais à avoir des formes, puis... Bon, tu sais, je sais pas, c'était un âge weird où tu sortais. Juste avant que tu retrouves un peu une forme normale, plus adulte. Mm-hmm. C'est comme une genre de période de transition d'adolescence, fin d'adolescence. Puis, je sais pas, je me suis juste dit... Puis, j'étais absolument pas grosse. Je sais pas pourquoi j'ai comme blâmé. Ça fait longtemps que je blâme tout sur mon corps, tu sais. En tout cas, bref. Puis là, je me suis juste dit, OK, ben je vais... Parfait, je suis en voyage. Je vais comme en profiter pour changer d'apparence. Puis, j'ai juste comme pas mangé. Ça donnait bien, j'avais comme pas d'argent. Je suis partie sans argent. Fait que j'ai quasiment pas mangé de tout le voyage. Je suis revenue, j'avais perdu comme, je sais pas, genre comme 15 livres. Puis je suis revenue, puis c'est sûrement la pire affaire qui a fait en sorte que comme ça, tu sais, l'engrenage a comme...
Mm-hmm. Une boule de neige.
Ouais, boule de neige. Je suis arrivée dans un party la première soirée quand je suis revenue, puis justement, mon ex était là, puis tout le monde était comme, t'es donc ben belle. Wow! Mm. Genre, puis... Tu sais, sa vie, tu sais, on nous nourrit de ça, là. Je veux dire, ça m'a clairement... J'étais comme affamée de validation, mm-hmm. J'étais affamée de confiance et d'amour. Puis, ouais, j'étais comme, ah, ben, you're on the right path, comme, OK, c'est cool. Ah, ben, c'était peut-être ça, dans le fond, comme, peut-être que, dans le fond, c'est ça, là, la route du bonheur, là, tu sais, puis... C'est ça. Puis là, c'était le début de quelque chose de vraiment pas nice. Au début, c'était juste pas tant manger moins, faire attention. Puis à un moment donné, t'as tellement faim, qu'à un moment donné, naturellement, tu savais pas c'était quoi la boulimie ni l'anorexie. Puis à un moment donné, c'est juste, OK, tu finis par manger, puis là, tu manges, mais là, tu te sens dégueulasse, fait que tu te fais vomir. Fait que, puis là, après ça, peut-être que pas tout est parti. Puis à un moment donné, t'apprends la... Là, tu comprends c'est quoi. Là, tu checkes un peu en ligne. Tu comprends. Ah, les laxatifs. Ah, là, tout peut sortir. Puis là, ah, les diurétiques. Toute l'eau de mon corps. Puis là, tu tombes dans des spirales d'addiction. La coke. Tu sais, c'est pas pour rien que la coke s'est apparue pas longtemps après ça là, dans ma vie. Parfaite drogue là, pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires. Là, ouais.
Puis en plus, t'as de l'énergie.
Ben, c'est ça. Ça coupe la faim. Puis t'as de l'énergie. Puis tu te sens de nouveau toi-même. Tu sais, comme. Puis ça te permet d'oublier temporairement toutes les horreurs que tu te fais vivre au quotidien. Fait que, bref, tout ça pour dire que, éventuellement, c'est comme quand même genre 10 ans plus tard là, que l'œil. Mm-hmm. Puis maintenant, j'ai un nano de silicone autour de l'œil pour toujours. Là. Je suis basically comme wow. Terminator. Je suis un peu Arnold, là. Mais j'ai eu la grosse opération où ils mettent un nano de silicone autour de ton œil pour pas que ta rétine bouge. Puis wow. ma vue a vraiment baissé à cause de ça, à cause de l'opération. Fait que là, mes deux yeux, ils n'ont plus la même vision pendant... Ça m'a pris genre un an et demi de grosse dépression après cette opération-là parce que je ne voyais plus de la même façon.
Ce qui est quand même horrible quand tu cognes ta vie avec tes yeux. Là.
Oui, puis maintenant, je vois des corps flottants tout le temps pour le reste de ma vie. Tu sais, il y a des graves conséquences. C'est pas, ça n'a pas fini à l'opération, tout est réglé. Non, mm-hmm. c'est comme pour le reste de ma vie, j'ai ce souvenir-là. Puis tu sais, il faut que je porte cette... Je le porte pas comme une honte, mais c'est un souvenir. Puis je me dis comme, tant mieux. Comme je suis reconnaissante avec le recul que ça soit arrivé. Parce que si c'était pas arrivé, je sais pas si j'a... Je sais pas, je serais où.
Non, mais oui,
je sais pas, je serais où.
C'est horrible ce que tu as vécu, mais ouais. ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être pire. Puis, ouais.
puis aussi, par exemple, ouais. ta situation était horrible. Je sais pas comment tu vivais, mais tu devais sentir...
Non, c'était comme penser au suicide assez régulièrement. Là. Je veux dire, les troubles alimentaires, c'est la maladie, c'est le trouble psychologique le plus mortel.
Wow!
De loin.
OK.
Puis c'est majoritairement, je sais pas si c'est majoritairement, mais les causes, c'est genre arrêt cardiaque ou suicide. Mm-hmm. Parce que c'est tellement une vie malheureuse. C'est vraiment comme sous-estimé. Là. Comme je pense que les gens comprennent pas très bien les troubles alimentaires, règle générale. Puis. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas l'information, on n'a pas accès. Puis il y a beaucoup de honte liée à ça, fait que c'est pas tout le monde qui en parle. Parce que c'est trash, là. Tu sais, je viens de te dire, je prenais 5 laxatifs par jour, ben, un moment donné dans ma vie, là. Comme c'est trash en tabarnak, là. Comme.
Une fois dans un bar, j'ai rencontré un gars qui faisait des arts martiaux mix, puis il était avec son épouse. Mm-hmm. Puis il me parlait qu'il faisait des arts martiaux mix, puis il avait dit, j'ai dit, pourquoi t'as arrêté? Il dit, j'ai arrêté, pop, les combats, je pourrais me battre demain matin. Mm-hmm. Pas de problème. Ce qui est vraiment tough, c'est faire le poids. Ces hommes-là, ces femmes-là qui font les arts martiaux doivent se battre à un certain poids, pour ce certain poids-là. Ils se font vivre des choses horribles. Puis c'est mon épouse, c'est son épouse qui avait dit, moi, je te suis plus là-dedans, c'est trop horrible. Il expliquait que, premièrement, il expliquait que juste quand il était que ça, il venait d'un entraînement, il appelait sa femme en disant, cuisine pas, fais même pas de toast, parce que si je sens une odeur de cuisine, je vais être fou. Wow. Puis il avait dit, j'ai pas de preuves, mais j'ai tellement perdu de gras que c'est de la matière, on dit de la matière graisse dans la tête, j'étais plus niaiseux. Ça affecte le cerveau, il dit, je suis convaincu.
C'est sûr, si tu manges pas, ton cerveau fonctionne pas aussi bien, là, of course. Ben oui. Ah, mais c'est horrible. Mais c'est ça, c'est la vie de quelqu'un qui...
T'as un gars qui se faisait frapper puis étrangler, il vivait mieux avec ça que réduire ses portions puis moins manger.
Il y a une étude tellement intéressante qui a été faite. On l'a appris parce que j'ai été suivie à Douglas, à l'hôpital Douglas, à la clinique des troubles alimentaires à une certaine époque. Puis il nous avait parlé de cette étude-là puis c'était tellement intéressant. Puis c'était après la Deuxième Guerre mondiale, c'était... En mode, genre, c'était même pas une étude à propos des troubles alimentaires à la base, c'était juste une étude de comme, OK, comment on gère mieux les rations de bouffe en temps de guerre? Fait qu'ils ont fait une étude comme massive avec un paquet de monde, puis ils ont juste fait comme, OK, cette moitié-là, vous allez être alimenté d'une façon normale, cette moitié-là, vous allez perdre comme un quart, tu sais, le quart de votre ration, après ça, ça va être une demi, puis en tout cas, tu sais, puis ils divisaient les groupes de même, puis les gens, ce qu'ils remarquaient, c'est que le plus que tu diminuais, le plus que les gens commençaient à avoir des comportements, puis ça, c'est, on parle des années genre 50, là, des comportements qu'on associe beaucoup au trouble alimentaire aujourd'hui, commençaient à cacher leur bouffe, commençaient à se faire vomir, commençaient à être obsédés par la nourriture. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont devenus des nutritionnistes après l'étude. Non, c'est fou parce que tu en reparleras avec des gens. Je sais pas si tu as des gens dans ton entourage qui ont déjà eu des troubles alimentaires, mais tu deviens tellement une encyclopédie nutritionnelle que, tu sais, c'est pour ça qu'ils disent que les troubles alimentaires, ça arrête jamais comme complètement, parce que tu peux pas oublier toute l'information, parce que tu deviens obsédé par cette information-là. Puis, il y a des gens qui deviennent nutritionnistes, ça devient comme leur path of life, là, parce que c'est juste à ça que tu penses 24-7, là, tu sais. Fait que dans l'étude, c'était tellement intéressant, puis c'est ça, puis il y en a plusieurs qui ont développé des troubles alimentaires, parce qu'à un moment donné, c'est comme, juste naturellement, tu vas enlever la base de ce qu'on a besoin pour comme vivre, tout se dérègle, puis tu commences à avoir des comportements vraiment dangereux, puis pour soi-même surtout, tu sais. Fait que, ouais, c'est très grave, ce trouble psychologique-là, puis il est très mal compris, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment juste un truc superficiel ou tu sais, d'apparence physique, puis c'est absolument pas ça. C'est des gens à la base qui vivent un mal-être, puis pour une raison X, Moi, je ne sais même pas. Moi-même, j'ai essayé pendant des années en thérapie de découvrir c'était quoi la raison, pourquoi c'est mon corps le problème, pourquoi. Tu sais, beaucoup de gens ont vécu un abus sexuel quand ils étaient jeunes. Peut-être, tu sais, quelque chose qui a rapport avec ton corps, qu'il y a comme tu portes une honte, tu portes. Ah, ça a attiré ça, il doit être problématique. Il y a comme tu l'associes à quelque chose dans ton vécu, mais. Je ne sais même pas. Peut-être qu'il y a des choses que je ne me souviens pas. Mm-hmm. I don't know, mais. J'ai toujours eu ce feeling-là, comme c'est mon corps le problème. T'sais, plus maintenant, là, mm-hmm. mais comme plus jeune, c'était vraiment ça. J'avais une honte. Là. J'ai commencé vraiment, vraiment jeune à altérer mon apparence. Genre à 8 ans, là, je me défrisais les cheveux. Je m'appelais parce que j'ai des cheveux extrêmement frisés.
Okay.
Je suis arabe.
Oui, oui, oui.
Puis, t'sais, même aujourd'hui, je me défrise encore les cheveux. C'est pas tout le temps, mais la grande majorité du temps, pour une raison X, c'est comme « Ah, t'es pas quand même comme t'es à la base. Hein, » hmm. Puis je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de ça qui a rapport avec le fait justement que je suis arabe puis que j'ai été élevée dans un environnement où j'étais élevée avec des Blancs puis qui ne ressemblaient pas à ça. Puis je me suis fait vraiment bully par rapport à mon apparence. Puis après ça, pas tout le monde réagit de la même façon. Mais je pense que moi, c'était ma façon de réagir. Je pense que c'est la cause de beaucoup de mes complexes. Là.
Tu dis que tu es arabe, mais précisément de quel pays?
Ma mère est palestinienne.
OK.
Puis mon père de Hawkesbury.
Comment ils se sont rencontrés?
À l'Université d'Ottawa, en fait. L'histoire, là, je ne veux pas la maganer parce que je ne suis pas sûre de tous les détails, mais en gros, mon père travaillait, je pense, comme au vestiaire, si je me souviens bien, d'un bar de danseuse. Mais je ne suis pas sûre à 100%, mais il faudrait que je confirme. Mais... Puis ma mère, elle travaillait aussi, je pense, à la réception, comme de... à l'accueil de ce même bar de danseuse, mais elle ne savait pas que c'était un bar de danseuse. C'est soit que c'était pas un bar de danseuse, c'était comme un bordel,
ouais.
Ou c'était un motel. Ah! Oh! Je sais, je vais m'en souvenir. Je pense que c'était le motel à côté d'un bar de danseuse. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a travaillé à la réception, mon père travaillait comme ailleurs dans le truc, puis en gros, elle savait pas que c'était... C'était ça que je pensais. Ma mère est extrêmement catholique. Fait qu'elle n'aurait jamais accepté ce poste. Puis
même
donné...
si c'est pas pratiquant, c'est pas tout le monde qui aime ce poste-là.
Non, c'est ça. C'est pas une job de rêve, là, nécessairement, de travailler dans un bordel. Mais c'est ça. Fait qu'ils se sont comme croisés. Là, un moment donné, je pense qu'elle a oublié ses clés. Il a fallu qu'elle revienne. Puis là, ils se sont croisés. Puis c'est même qu'ils se sont rencontrés. En tout cas,
wow.
Si j'ai bien compris l'histoire, ça ressemble à ça.
T'es palestinienne. Comment tu vis ce qui se passe en ce moment?
Extrêmement mal. Extrêmement mal. J'ai de la misère à trouver des mots, honnêtement. J'ai de la misère à trouver des mots. Je sais pas comment... Je peux pas résumer vraiment très facilement comment je me sens par rapport à cette situation-là. Je suis juste... Il y a pas de mots assez comme lourd et important et dramatique pour exprimer à quel point je suis triste, dégoûtée, à quel point je me sens impuissante, à quel point je suis comme enragée, comme juste décalissée en général. C'est pas juste... C'est tellement plus large que juste le conflit, c'est être exposé à autant d'injustices, être exposé à autant de cruauté humaine, ça rend ça tough de continuer à vivre, tout simplement, puis exister dans le monde en essayant de juste comme être heureux, puis avoir une vie normale. C'est comme... C'est très...
Te sens-tu coupable?
Je me sens pas... Non, je me sens pas coupable, mais je sens une énorme absurdité. Là. Comme, c'est tellement absurde, l'existence humaine. Comme, c'est un pur hasard que moi, je sois née ici. C'est un pur hasard. Puis moi, j'ai tout ce privilège-là de juste être confortable chez moi, en sécurité. Puis en parallèle, j'observe en temps réel. Là, on n'a jamais été exposé à un génocide en live stream. Mm-hmm. c'est jamais arrivé dans le monde une guerre comme racontée par son propre peuple qui est en train de se faire détruire.
C'est raconté des deux bords. C'est raconté par les victimes, ouais. Les agresseurs qui se filment en train de faire des crimes horribles.
Ben, les agresseurs se victimisent également. Là.
Aussi.
C'est comme...
Aussi.
Mais c'est je trouve que c'est... Ça commence à être impossible de vivre. Comme moi, j'ai... Depuis le 7 octobre, j'ai sombré, là, vraiment. Là. C'est pour ça qu'on disait tantôt, je suis partie récemment, puis j'ai le privilège de pouvoir partir, mais honnêtement, je pétais aux frettes, là, comme sincèrement, j'allais pas bien. Là, comme, j'allais pas bien depuis un bout. Là. Puis c'était mixé, c'était pas uniquement ça, mais c'est ça qui m'a comme cloué à terre.
J'avais pas, quoi.
Ouais. Je veux dire, tous les jours, de voir des enfants morts, des enfants orphelins, des gens se faire comme gonner, comme si tu étais en train de jouer à GoldenEye, genre comme... ils sont traités comme des animaux, comme... Ces images-là, je suis plus capable de les voir, là. Comme je suis plus capable de voir ces images-là, là. Comme au début... Au début du génocide, parce que c'est pas un conflit, c'est un génocide. Là. Au début du génocide, je partageais beaucoup d'informations, j'étais obsédée. Tout ce que je faisais jour et nuit, c'est juste checker les updates, lire les articles, regarder les reportages, comme j'étais obsédée. Puis... je me suis vue juste détériorer, là, comme ça m'a empoisonné, puis ça m'a amené, ça m'a sombré dans une comme énorme dépression, là, comme à un moment donné, l'impuissance, là, liée à ça, comme l'impuissance de juste être la personne, tu sais, l'absurdité, là, comme c'est, quand tu dis tu te sens coupable, comme c'est pas coupable parce que j'ai pas choisi, c'est pas comme si j'ai fait un choix comme je me ferme les yeux, puis je fais un choix, je suis juste dans ma vie. Puis, mais... C'est juste l'absurdité, je pense, je dirais plus. C'est juste une conscience de l'absurdité totale du hasard de la vie humaine, de comme... Ça donne que je suis née ici, puis moi, c'est ça ma réalité. Puis, mais moi, ma mère, elle a vécu ces guerres-là, tu sais, comme pas comme celle-ci, mais je veux dire...
C'est pas la première fois qu'il y a une guerre dans cette région-là. Non.
Ils ont jamais parlé, les médias occidentaux ont jamais... Ben, même qu'ils en parlent pas comme tant que ça, puis pas si bien, mais on n'a jamais autant parlé de la Palestine. Là, comme, tu sais, j'ai jamais... C'est ça qui est tellement triste, c'est que en vieillissant, tu sais, comme on parlait tantôt, que j'avais tellement de la misère à accepter juste mon apparence physique... Puis maintenant, j'ai jamais autant vu des gens qui me ressemblent. Quand je regarde mon téléphone, je regarde comme je me reconnais. Je me reconnais dans un peu tout, dans les traits, dans l'intensité, dans la résilience même, tu sais, dans la force. Puis je reconnais ma mère surtout, mais tu sais, je suis un peu saisie de ma mère, puis j'ai été élevée par ma mère. Fait que je me reconnais, puis je me reconnais, mais en même temps, ces gens-là sont en train de... comme mourir dans mon écran, là. C'est ça, c'est comme, oh wow, des comme moi, puis c'est la première fois que je vois autant de gens comme moi, mais ils sont tous en train de mourir,
de disparaître,
puis on les traite comme des animaux, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent de commencer à entendre parler de ce qui se passe en Palestine, mais... J'ai été élevée avec ça, là. J'ai ça dans mon ADN, j'ai les traumas générationnels. Comme fait que pour moi, c'est extrêmement triggering, tout ça, mais je suis très contente de voir à quel point les gens en parlent puis à quel point les gens partagent. Mais pour moi, c'est devenu un moment donné, les vidéos graphiques, comme, c'est ça qui est fucked up. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je veux pas arrêter d'en parler. Fait que, tu sais, je pose des gestes concrets. J'ai fait un chandail avec ma mère. On a ramassé plein de fonds. On les a envoyés à Medical Aid for Palestine, qui est un organisme à Bethléem qui aide les Palestiniens. Fait que j'essaie de comme, poser des gestes. Je vais envoyer les lettres, appeler mes représentants. Mais un moment donné, comme le partage sur un... Tu sais, on veut pas que le discours s'essouffle, mais en même temps, je suis plus capable de voir des bébés morts.
Ouais.
Fait que je sais pas comme quoi faire en ce moment. Fait que c'est ça, comme c'est comme... Je sais pas comment mettre des mots exacts sur comment je me sens. Je suis juste trapped. Je me sens trapped. Mm-hmm. Je me sens figée, puis je suis vraiment fâchée, puis vraiment triste, puis j'ai tellement pleuré, j'ai tellement comme... Mais je suis plus capable. C'est comme, un moment donné, ça fait juste s'empirer à chaque jour. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'était juste un gars qui marchait déjà affaibli dans un endroit un peu désertique, qui se fait juste faire pitcher une bombe dessus. Il est mort. Un autre vidéo, même chose, un gars qui marche tout seul. Ils se font cibler, je veux dire, c'est comme... C'est complètement illégal, c'est une guerre illégale, là, comme gravement illégale, puis l'Occident fait absolument rien.
Ils font pas rien, ils contribuent.
Mais non, oui, absolument.
C'est vrai? Il faut le mentionner? Non, mais faut le mentionner.
Oui, t'as raison.
Ouais.
T'as actually 100% ouais. raison. On fournit les armes, on fournit... Puis tu sais, on envoie de l'aide, puis on envoie bien plus d'armes, je veux dire, c'est capoté. Puis le Canada, quelle honte! Quelle honte! C'est fou! On vient tout juste d'appeler pour un cessez-le-feu. Tu sais, ça fait genre une semaine. Le 7 octobre, on est rendu au mois. Ça fait 6 mois. Hey, j'ai honte, là. J'ai jamais eu aussi honte de Canadienne. J'ai jamais eu aussi honte. Genre, je suis comme... Ouais, je suis dégoûtée par tout ça. Vraiment. Toi, comment tu le vis?
Au début, j'étais très enragé. Je trouvais vraiment. J'étais enrageant. Ensuite, j'ai trouvé ça enrageant de voir qu'il n'y a pas autant de gens enragés. Parce que des fois, quand j'en parlais sur scène, je fais des blagues là-dessus. Que mes blagues soient bonnes ou mauvaises, ça c'est subjectif. Mais des fois, sentir que les gens disaient de quoi ils parlent. Fait que, waouh, qu'un truc aussi horrible, il y a des gens qui ne sont même pas au courant. D'un autre côté, je me disais, ça c'est ma blonde qui me disait ça, quand tu vois un show d'humour, des fois, t'es là pour.
Décrocher,
puis tu peux, dans le reste de ta journée, réfléchir à ça, mais quand tu vas là une demi-heure ou une heure, peut-être pour passer à autre chose, fait que ça, je me suis calmé par rapport à ça. Mais je trouve ça fou parce qu'on dit tout le temps, quand il y a des films sur la Deuxième Guerre mondiale, on fait, hey, moi, là, j'aurais jamais laissé passer ça.
Exact.
Moi, là, la Shoah, ça serait jamais arrivé. Puis moi, Hitler, on l'aurait arrêté avant, puis jamais il serait rentré dans plusieurs pays. Il y a des trucs qui sont similaire. Il y a de l'horreur et on fait rien. Il y a un film génial. C'est le film qui a gagné aux Oscars cette année. Le film étranger s'appelle Zone d'intérêt. Puis c'est un film horrible et génial. C'est l'histoire du directeur de Auschwitz. C'est l'histoire vraie du directeur de Auschwitz. Et comment c'est filmé? Tu vois jamais Auschwitz, mais tu vois juste sa maison. Et c'est un film sur à quel point le directeur d'Auschwitz, il a une vie tout à fait normale. C'est 2 heures sur un gars qui a organisé, orchestré la mort de je sais pas combien de gens, puis à quel point il vit bien, puis il a un beau jardin, puis il mange bien, puis son chien est bien élevé. Puis c'est une belle métaphore de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a un peuple qui crève, puis on vit bien, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée, on a bien mangé, on est bonne humeur, on consomme de l'art, ça va, c'est...
Ouais.
Fait que c'est ça, comment je me sens, à quel point c'est horrible,
ouais.
Puis à quel point je peux l'oublier. Pendant peut-être une journée, 2 journées. Puis ça me revient en disant « Oh, fuck, j'oublie à quel point c'est horrible. »
Ouais. C'est... Ouais.
Qu'on s'habitue à l'horreur. Qu'on s'habitue.
Ah, ça, c'est la pire affaire. Ouais. On s'habitue à tout.
Ouais.
On s'habitue à tout. On est des creatures of habits. Puis c'est vrai qu'on devient, à un moment donné, moins sensible. Mais c'est comme... En tout cas, je parle juste en général, les humains, là, je pense pas que je suis pas devenue moins sensible à ce qui se passe, mais un moment donné, les vidéos à répétition, un moment donné, c'est parce que tu veux comme te tenir au courant, mais au courant, c'est juste une nouvelle mort, une nouvelle horreur, un nouveau massacre. Je sais pas, je suis comme...
Puis c'est de plus en plus horrible. Je me souviens au début du conflit, il y avait... Moi, je m'étais vraiment intéressé à ce qui... Il y a un hôpital qui était détruit.
Ben oui.
Le débat...
Là, il y en a plus.
Exactement.
Ouais.
Le débat, c'est qui a détruit l'hôpital.
Oui.
Parce que c'est...
Ah oui, puis là, les Israéliens étaient comme, « Oh non, c'est pas nous autres. » Ou qu'est-ce qu'ils avaient dit? « Ah, oh, c'était dans la cour, puis...
» Dans le parking.
Dans le parking.
Moi, j'ai dit ça en disant, « On peut voir détruire l'hôpital, ils ont détruit le parking. » Et là, Il n'y a plus d'hôpitaux. C'est fou. On est passé d'un débat à waouh, qui a détruit l'hôpital, hein? Ça, c'est derrière nous. Il n'y a plus d'hôpitaux, c'est normal. Fou. Fou. À quel point ça évolue vite? Débattre de hey, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu un. Horrible, 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 horrible. Puis aussi à quel point personne ne donne une chance à la Palestine. Mm-hmm. Genre, on sait tous, si ça n'arrête pas, ils vont juste disparaître. Il n'y a pas de.
Mais c'est fou.
Ouais.
C'est fou que ça soit les Israéliens. Comme l'absurdité est folle. Tu parlais de justement, tu sais, l'Holocauste, puis comme c'est juste le cycle, on dirait, de comme. L'agresseur, le cycle de la violence, là, sont littéralement en train de reproduire leur histoire, mais dans une autre position. Là, comme c'est tellement humain dans le pire des sens. Là.
Hannah Arendt, qui est une philosophe juive, elle a écrit un livre sur. Le procès d'Eichmann. Eichmann, pour une histoire extrêmement courte, c'est un gars qui s'occupait, c'était un nazi, c'était un cadre nazi qui s'occupait d'organiser la solution finale, organiser les camps. Lui, il s'arrangeait pour. Moi, il était vraiment bon pour mettre plein de juifs dans des trains et les amener dans les camps de concentration. À la fin de la guerre, il s'est sauvé. Et il s'est sauvé en Argentine. Et c'est le Mossad, la CIA israélienne, qui l'a retrouvé en Argentine, qui l'a emmené en Argentine. C'est le premier nazi qui a été jugée en Israël. Et elle a suivi ce procès-là. Puis une des choses qu'elle a dit, elle a écrit un livre là-dessus, puis une des choses qu'elle avait dit, c'est une erreur, je crois, que Israël a faite. Et ils ont dit que les crimes d'Eichmann, c'est un crime contre les Juifs. Puis elle a dit non, c'est pas un crime contre les Juifs, c'est un crime contre l'humanité. Faut bien un petit peu qu'on soit... C'est un crime contre l'humain. Puis je crois qu'elle dit ça parce que c'est super intéressant. Qu'il faut pas reproduire ça. Il faut savoir que c'est un crime contre l'humain, puis voir qu'on est tous des êtres humains, puis... Il faut voir sa propre humanité. Puis il faut voir aussi l'humanité dans les autres.
Ouais.
Des fois, c'est horrible de. Quand on écoute certains discours anti-palestiniens qui sont. C'est pas des êtres humains. C'est une espèce de.
Ben, c'est des animaux, là. Je veux dire, ils ont littéralement. Ils les ont appelés des animaux. Tu vois, j'ai écouté un vidéo, c'était juste un genre de speech, là, comme d'un rabbi. Puis il disait carrément comme il faut tous les tuer. Tous les enfants, tout le monde, faut les irradier. Puis ça, c'est un leader spirituel là, dont on parle comme il y a pas d'humanité. J'ai vu des femmes, des hommes, parler des Palestiniens comme si c'était des déchets, comme de la vermine. Là. C'est fou de généraliser. C'est fou, cette haine-là, le pouvoir de la haine est tellement destructrice. Mais je trouve que c'est ça. Quand je disais tantôt, c'est vraiment difficile de continuer à juste vivre puis exister comme sainement. C'est aussi le fait que, comme on est en 2024, on a vécu tellement d'atrocités. On parle de guerre mondiale. Puis on a mis en place... Puis, of course, il y a toujours eu des injustices, pas la première, mais là, c'est à un autre fucking niveau, là, tu sais. Puis on a une cour internationale pour juger, justement, est-ce que ceci est une guerre... Parce que t'as droit, tu sais, de comme...
C'est vraiment paradoxal puis ironique,
ouais, c'est une guerre illégale. Oui, c'est fucked up. Mais est-ce que cette guerre-là est légale? Non, c'est-tu conforme? Puis, c'est-tu un génocide ou pas tant? C'est-tu intentionnel qu'ils veulent toutes les tuer? Ou c'est pas intentionnel, en fond, c'est juste comme, ils ont pas le choix parce que le Hamas est là, fait qu'il faut comme un peu qu'ils bombardent un peu partout parce que le Hamas pourrait être caché, tu sais. Fait qu'on a ces systèmes-là qui sont en place, puis ils ont été jugés, puis personne fait rien, fait que, il y a pas, c'est comme je me sens pas en sécurité là, je sens pas que personne devrait se sentir en sécurité parce que finalement on a instauré des genres de, on dirait du théâtre, c'est comme pas vrai. Puis même si tout le monde est là, comme l'ONU, tu sais, je disais, même ces votes là, puis je disais, il y a rien qui se passe là. Même si la majorité des gens sont comme oui, un cessez-le-feu, il y a rien qui se passe.
Ouais.
C'est décalissant, c'est comme il y a pas de on fait pas suite à ces jugements-là, on fait pas honneur, on rend pas honneur à la majorité, puis à la voix des populations. Tu vois, les grandes manifestations partout, dans toutes les grandes villes, c'est incroyable, les soulèvements populaires. Puis, on le sait, là, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment enrageant dans un moment où t'es témoin au quotidien de la disparition de ton peuple, qu'en parallèle, tu sens plus que jamais que les dirigeants s'en collissent, mais comme fois mille de ce que la population veut. Puis après ça, bien sûr, il y a des gens qui pensent pas comme ça, puis je comprends pas comment tu pourrais être pro-Israël à ce point-ci, pour être honnête. En tout cas, je m'en fous, comme je honte 100% ce que je dis, comme comment est-ce que rendu à ce point-ci, je parle pas, on n'est pas le 8 octobre, là. Là, on est au mois de mars 2024, on est ailleurs, là. On n'est plus là, là. Puis je suis pas en train de dire qu'est-ce qui s'est passé cet octobre, c'est correct.
C'est un cauchemar, c'est une horreur.
Mais c'est pas comme ça. T'sais, là, clairement, ils ont profité de cette porte-là pour faire leur plan. C'est le plan depuis toujours. C'est juste ça qu'ils attendaient.
Mais le premier ministre Netanyahou, il est là depuis longtemps, puis c'est un discours qui tient depuis longtemps.
C'est un malade.
Ce qui est fou de Netanyahou, c'est que cet été, il y avait des manifestations en Israël pour le temps. C'est un homme corrompu. C'est un homme qui a changé la constitution, qui a changé les cours. Il est
extrême droite, là. C'est
pas le plus légitime, là.
Mais non, c'est le pire. Comme il allait se faire tasser. Puis la seule raison, mais il y a beaucoup de théories qui disent que la seule et unique raison pour laquelle il prolonge autant cette guerre-là, c'est que quand elle arrête, il s'en va en prison. Comme il est vraiment dans le mal, ce gars-là. Puis pas par rapport à la guerre, juste d'autres shit qu'il avait fait avant. Il est extrêmement corrompu. C'est le pire dude. Puis c'est fou. Je ne comprends pas que en mars 2024, tu peux encore penser que c'est légitime ce que Israël est en train de faire subir au peuple palestinien. Il y a 1,1 million d'habitants à Gaza en ce moment qui sont en grave danger de mort liée à la famine.
C'est un siège.
C'est juste fou. J'ai tellement honte de l'Occident. Je suis genre dégoûtée.
Puis tu es d'accord que ce qui est déprimant puis qui est triste là-dedans, c'est... Je la vois pas, la solution.
Ben non, mais...
C'est ça qui est triste. Je veux dire, quand je sais pas si je la vois pas, mais quand je dis la vois pas, c'est pas qu'elle existe pas, mais j'arrive pas avec mon imagination, ma créativité. Ah! Tel événement va se produire, et ça va mieux aller. Il y a de quoi dans l'horreur, il y a pas de fin à cette horreur-là.
Mais est-ce que t'as comme, mettons, dans le sens que tu crois pas qu'un idéal va être atteint ou qu'une solution va être atteinte, ou tu vois juste pas comment c'est possible?
Je crois qu'ils vont arriver à leur fin. Je crois que c'est ça. C'est ce qui me fait autant de peine. C'est que ça fait longtemps, ce conflit-là, depuis que je suis né, qu'il existe. C'est la première fois que je me dis « Oh, c'est peut-être la fin. »
Ben, si les gouvernements qui cautionnent ce génocide-là changent pas l'opposition, oui, c'est ça qui va arriver. Mais je peux pas perdre espoir. Mais en même temps, il n'y a plus d'espoir à avoir quasiment. Tu sais, c'est fou. Même, je me disais, OK, c'est l'année, c'est Biden, c'est l'année électorale. C'est en novembre. Genre, il y a beaucoup du Democratic base qui n'est pas down là, avec la position de Biden. Puis beaucoup de l'électorat noir aussi. Qui est en train de...
Arabe?
Oui, arabe.
On a discuté à coup plus bas, mais au Michigan, un État clé là, pour gagner la présidence, parce que c'est un État qui vote des fois bleu, des fois rouge. Une des raisons pour qu'il ça a été bleu il y a 4 ans pour Biden, c'est que les musulmans ont voté pour Biden. Peut-être que les musulmans ne voteront pas pour Biden pour la prochaine élection, puis c'est Trump qui va rentrer.
Mais c'est ça l'affaire. Trump, c'est ça qui est débile!
Mais Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire.
Mais c'est ça, Trump... Je pense qu'il est imprévisible. Mais j'ai aussi un feeling, puis c'est tellement capoté de dire ça de Trump, mais j'ai aussi un feeling que... Parce que Trump, il veut pas être la bitch à personne. Puis en ce moment, Biden, il est pas en train de dire à Netanyahou, genre, arrête, or else. Grave conséquence pour Israël.
Les rumeurs, c'est qu'il dit dans le privé. Mais tu sais.
Ouais.
Ça serait le fun qu'il dise en public.
Ouais. Mais tu sais, Trump, je pense qu'il voudrait tellement pas avoir l'air de la bitch à personne que je pense que peut-être qu'il y aurait plus de chances qu'il fasse de quoi pour arrêter. Puis c'est fou même de dire ça. C'est fou que ça soit nos fucking options. Mm-hmm. C'est soit le style psychopathe, genre, qui va peut-être être dans ce cas-ci moins un psychopathe que l'autre psychopathe, puis qui va peut-être faire en sorte que...
Mais c'est un gros si. Puis il y a une campagne électorale, puis il risque de poser la question, puis on va le savoir.
J'ai hâte de savoir, mais tu sais, considérant sa position avec la Chine, il aime pas ça, là, quand il y en a un autre qui a plus de pouvoir que lui, mm-hmm. puis I don't know. Je serais curieuse de voir, mais c'est ça, je me suis dit, peut-être avec les élections qui arrivent, peut-être qu'il y aurait peur, Biden, peut-être qu'il mettrait plus de pression, puis il en met plus, mais pas assez, puis... Ouais. Tu sais, fait que qu'est-ce qui va se passer? I don't know, mais c'est... En tout cas, Justin, man, moi, je suis plus...
Ouais.
Je l'aurais laissé aussi. C'est une joke. Je sais pas si c'est qui l'a laissé, mais en tout cas... Mais ouais, c'est triste, man. C'est pas une belle... Comment tu trouves ça, toi, comme vivre dans un moment où c'est ça notre réalité, mettons, comme t'es-tu? Comment... Je veux dire, ça a toujours été des cauchemars, là, depuis qu'on est né. Puis des... Mais...
Mon secret pour... Parce que je constate que je suis quelqu'un de très heureux. Je suis pas dépressif, mm-hmm. je suis plus anxieux. Mm-hmm. Je suis plus anxieux que ouais. dépressif. Et mon secret pour être de bonne humeur, c'est me concentrer sur les choses qui sont près de moi
oui.
et que je peux contrôler.
Ouais.
Par contre, ça, à long terme, ça fait que tu t'isoles puis tu deviens cynique. Puis tu fais, j'ai du pouvoir sur rien. Puis je pense que dans la vie, c'est important
ouais.
ouvrir ses esprits.
Ouais.
Comment je vis par rapport à ça? Quand je vois des choses, plus je sens qu'il y a de l'horreur,
ouais.
plus je me concentre sur ce qui est beau autour de moi. Fait que plus je travaille,
ouais.
j'augmente mes heures de travail, je passe plus de temps à parler à mes amis. Moi, ouais. c'est très paradoxal, mais quand il y a des événements comme ça,
ouais.
je prends le temps de dire à mes amis que je les aime, je prends le temps de dire à ma famille que je les aime, je prends le temps de mieux manger, je prends ouais. le temps de boire de l'eau. C'est aussi con que ça. C'est horrible bon. Ce que je vais dire,
non,
mais depuis que ça, je bois plus d'eau parce que je veux me sentir mieux, parce que je me dis que ça mine, fait que j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler.
Ouais.
Fait que c'est comme ça que je passe au travers. Mais c'est quand même horrible et très... Ouais, ouais.
Mais on peut pas aider les autres si on n'est pas nous bien. T'sais, c'est pour ça aussi que je suis partie là, récemment, personnellement, j'étais plus capable d'être à même... Je sais pas, j'avais besoin juste ouais. de changer...
On dit, mais mettons, moi, je suis fasciné par... Je suis obsédé, je suis fasciné par la guerre de sécession américaine. Puis Abraham Lincoln, qui était président à l'époque, président de l'Union, président du camp du Nord, il avait la pire vie. Pendant la guerre, un de ses fils est mort. S'il s'était dit « Ah, mais mon fils est mort, puis tu sais, il faut que je me concentre sur moi, puis il faut que je lise plus, puis il faut que je boive plus d'eau », il n'aurait pas gagné cette guerre. Il n'aurait pas changé
mm-hmm.
la vie de tant de gens.
Mm-hmm.
Fait que
mais c'était peut-être un driving force aussi, en
peut-être.
Mode... Je sais pas, comme le greater good, c'est comme...
Okay, par contre, Abraham Lincoln, il avait plus de pouvoir qu'une deux, là.
Oui.
Il faut aussi mentionner ça, là. Peut-être que je le compare à Abraham.
Légèrement ouais. plus. Mais, ben oui, je sais pas. Je pense que c'est un mix, tu sais. Je pense que tu peux pas te délaisser complètement. Faut que tu prennes soin de toi, sinon tu sers à rien. Tu peux pas être une voix positive. Tu peux pas propager de l'information. Tu peux pas être là pour tes amis. Tu peux pas être comme avoir un impact parce que veux pas, le plus grand impact qu'on a, c'est souvent dans notre entourage direct. Fait que,
mm-hmm.
tu sais, il faut que tu prennes soin de toi, mais en même temps, ça veut pas dire d'arrêter de s'informer puis d'arrêter d'être conscient puis d'avoir une opinion claire par rapport à ce qui se passe puis de se nourrir d'informations puis de juste comme... Ouais, être capable de comme verbaliser ou vocaliser ton opinion quand elle a besoin de l'aide puis de supporter ce peuple-là opprimé comme... Mais je pense à la base, il faut faire attention. Tu sais, c'est ça, je me suis dit à un moment donné, tu sais, je postais beaucoup au début du conflit, puis à un moment donné, j'ai juste comme réduit parce que, ouais, j'étais juste en train de sombrer, puis je suis comme, ah, ben, je sais rien, là, c'est à un moment donné. Si moi, je me clenche, je peux plus rien dire.
Est-ce que des journalistes qui t'appellent pour que
Il y en avait beaucoup au début, puis ça m'a tout de suite vraiment refroidi. Je me sentais comme un token, là, comme mm-hmm. un token palestinien. Il n'y a pas beaucoup de
Palestinien. T'es la seule que je connais.
À part ma famille, oui. À part ma famille, je suis la seule Palestinienne que je connais. Puis, fait que, tu sais, il n'y a pas une... Tu sais, je parle comme dans les peut-être les personnes comme, qui ont une tribune. Ou... Mm-hmm. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que je trouvais ça cool, mais en même temps, je trouvais ça cool qu'il m'approche, mais en même temps, je me sentais très comme... Ouais, je me sentais comme... Ouais, comme token, un peu. Puis je trouvais ça
mais pourquoi?
Vraiment inconfortable.
Mais pourquoi?
Je sais pas pourquoi, c'est dur à expliquer. J'étais comme... J'avais l'impression qu'il voulait un pity story, comme un sad story, un sob story. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il voulait que j'aille raconter mon truc, puis ça soit dans mes tristes. Je voulais, j'ai comme l'impression qu'il voulait comme une histoire triste à raconter, mais j'étais pas triste, j'étais enragée, puis j'étais... j'étais triste, mais j'étais surtout enragée, puis j'étais pas capable de... J'avais peur d'être trop émotive pour m'exprimer correctement aussi. Fait que pour toutes ces raisons-là, je l'ai comme pas faite, mais j'ai utilisé ma tribune pour en parler. Mais tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu sais, ma mère, elle a vécu une vie vraiment difficile en Palestine, puis quand elle a fui le pays, ben, elle est pas partie avec comme cette mentalité-là, parce qu'elle était orpheline aussi, fait qu'elle est pas partie avec la mentalité comme... Elle a jamais été anti-juive, pas du tout. Puis ma mère est tellement chrétienne, est tellement croyante qu'elle est juste... Elle veut juste la paix dans le monde. Comme il n'y a pas d'autre façon de dire.
Qui est la, qui est la philosophie, l'idéologie de bien des gens.
Ben oui, puis je pense la Oui, puis tu sais, fait que c'est pour ça qu'elle a beaucoup de misère à comme... Même au début on va dire, du conflit, vu que c'était comme la première semaine... Ouais, c'était comme... C'était tough pour elle de gager, tu sais. Même qu'elle commençait à... Même que c'était dur, j'étais comme plus enragée qu'elle à certains moments parce qu'elle est tellement dans cette idéologie-là chrétienne de comme... Il n'y a pas de mal et de bon, c'est juste le diable qui prend possession de ces gens-là. Puis c'est pas de leur faute, c'est le diable, le diable, comme... C'est lui qui contrôle tout, il veut diviser. Fait que c'est comme... Il y a aussi cette espèce de comme déresponsabilisation-là quand t'es beaucoup dans l'idéologie religieuse chrétienne. En tout cas, c'est que c'est quasiment comme pas de ta faute, c'est l'esprit du mal. Fait que c'était comme dur des fois d'avoir des conversations plus concrètes par rapport aux actions concrètes que tel gouvernement ou tel gouvernement posait. Parce que c'est tellement comme rien de notre faute, dans le fond. C'est juste comme qu'il y a des esprits qui nous contrôlent. Puis là, ce serait comme... Là, c'est le diable. C'est exactement ça qu'il veut. Il veut nous diviser, puis il veut nous détruire. Fait que...
T'as-tu arrêté d'en parler avec elle?
Non, j'ai pas arrêté. Okay. Parce que j'ai été... Non, elle était vraiment bizarrement comme... Parce que ma mère est extrêmement forte, puis elle était comme plus là pour moi. Puis, tu sais, je l'appelais tous les jours, on se parlait beaucoup, elle, c'était très tough pour elle. Mais elle, elle écrit, elle va comme écrire des pièces de théâtre, puis composer des chansons.
Wow!
Ouais, quand ça comme vraiment overwhelmed, mais tellement spéciale, ma mère, là, je l'adore. Puis, fait que je pense qu'elle, elle avait son histoire, puis on parlait beaucoup, mais je pense qu'elle. Ouais, on a eu des. Super bonne conversation, mais je pense qu'il y a quelque chose que, tu sais, elle a pas vécu. Tu sais, moi, j'ai vraiment un détachement, c'est vraiment pas ça le bon mot, en fait. C'est comme une déconnexion.
T'es moins enracinée qu'elle.
Ben c'est ça, exactement. Il y a comme une déconnexion culturelle, même si j'ai été élevée par une mère palestinienne d'une culture chrétienne, avec des valeurs chrétiennes, puis l'histoire et la culture arabe chez moi, c'était ça, là.
Quel mélange.
T'sais, oui, fait, mais dans... Ah, comme Gatineau, Québec.
Quel mélange.
Tu sais, puis ouais. Comme... Fait que j'ai été élevée de cette façon-là, j'incarne ces valeurs-là, j'ai imbibé ma mère, comme on se ressemble tellement, et physiquement, et philosophiquement. C'est sûr que elle m'a comme rentré la religion dans la gorge comme vraiment jeune. Fait que moi, j'ai rebellé. Puis la religion, ça n'a jamais fait partie de ma vie. Mais je pense que j'ai comme...
Spirituelle, mais t'es pas religieuse.
Je suis très spirituelle. mais je suis pas religieuse, exactement. Comme je crois pas à l'église. Mm-hmm. Mais je suis très, très, très chanceuse d'avoir une mère qui m'a élevée avec les valeurs de la religion catholique parce que, bon, en tout cas, la majorité d'entre elles, les autres, ceux que j'étais pas dans, je sais pas, mais mettons comme la majorité, je trouve, on paper, c'est des très, très, très belles valeurs. Ben oui. Tu sais, mais.
Aime ton prochain, partage ta richesse, ouais, vole pas, c'est bien.
Oui, c'est
bien.
C'est pas peur.
C'est bien.
Mais, tu sais, c'est ça. Fait que oui, il y a eu des belles conversations, mais c'est ça, je pense qu'il y a comme cette histoire-là de déconnexion. C'est que moi, j'ai déjà voulu aller en Palestine, j'animais une mission de télé, puis. On allait dans des endroits où il y avait comme un avant, un après, comme une cassure.
Genre Détroit, je pense.
Genre Détroit, la Nouvelle-Orléans. Puis là, pour la deuxième saison, on avait parlé d'aller à Israël et en Palestine, puis d'amener ma mère. Puis j'ai tellement peur parce que ma mère m'a toujours... Tu sais, c'était pas comme « Oh, j'ai hâte que vous... » Tu sais, elle me parle de son pays en bien, mais elle a pas tant... a jamais eu tant envie qu'on y aille en gang. Puis, tu sais, c'est comme pas les best souvenirs. Puis, presque toute ma famille est morte qui est là-bas. Fait que c'est comme... J'ai dit, maman, tu sais, ça serait payé en plus, comme imagine, tu sais. Puis, les Arabes, ça veut toujours un bon deal. Puis là, était comme... Tu sais, sa réponse, j'étais comme excitée parce que je me suis dit, si j'y vais avec quelqu'un, je vais aller avec maman. Parce que sinon, honnêtement, j'ai peur. Puis... J'étais comme pas à l'aise d'y aller, tout ça. J'ai tellement été nourrie d'images comme pas nice, mettons, de la Palestine. Fait, mais pas nice, mais inconfortable puis épeurante. Fait que ma mère, quand j'ai dit, elle m'a vraiment répondu. J'ai dit, hey, on pourrait y aller, ensemble, ça serait payé et tout. Puis elle m'a regardé, puis était comme, pourquoi on irait là? Genre, c'était vraiment ça, sa réponse. Puis je suis comme, mais mamie, j'ai jamais été en contact avec ce lieu-là. C'est la moitié ou le trois quarts de qui je suis. Je veux le vivre, je veux connecter avec ça, je veux rencontrer les gens qui me ressemblent, je veux découvrir la culture sur le terrain. Puis c'était juste comme pas... Je pensais trop de PTSD, il y a trop de mauvais souvenirs. Fait que c'est ça. Fait que quand je regarde la situation actuelle, je suis comme, ah ben, je vais peut-être jamais pouvoir connecter avec une des choses qui fait en sorte que je suis qui je suis, tu sais. Mm-hmm. Une des grandes choses qui fait en sorte que je suis qui je suis. Puis il y a quelque chose de... C'est comme un deuil, ça, vraiment. J'espère que c'est pas vrai. Puis sincèrement, c'est pas vrai, mais how things are looking en ce moment, ça augure pas bien, là. Mm-hmm. Puis quelque chose de très weird là-dedans, de comme... Ah, cette partie-là de moi, j'ai toujours eu un inconfort puis une curiosité énorme puis un manque, là, un trou, genre. Ben, je veux-tu un jour pouvoir sentir cette connexion-là ailleurs que directement avec ma mère? I don't know maintenant, tu sais.
Est-ce que des fois, tu veux parler à d'autres Palestiniens qui sont au Québec ou au Canada? Est-ce que...
100%. 100%. Puis, tu sais, il y a comme des groupes qui se sont formés pendant les, tu sais, au travers des manifestations, puis depuis ce qui se passe. Puis, je parle avec plusieurs Arabes. Ça donne juste que c'est pas des Palestiniens.
Parce que c'est une cause qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde arabe. Là,
Ben oui. Oui. Ben oui, parce que... Ben oui.
Mm-hmm.
Mais tous les peuples opprimés, tous les peuples qui se sont déjà sentis écrasés, opprimés, devraient se sentir et se sentent interpellés. Je veux dire, c'est pour ça aussi que Biden va probablement perdre comme beaucoup de votes noirs aussi. Je veux dire, comme ils se reconnaissent. Là. Je veux dire, n'importe qui se sent comme second class citizen ou qui a un historique de ça dans ton background se sent 100% touché par ce qui se passe en Palestine. C'est carrément ça. Ils se font traiter comme des citoyens. Ben, c'est même pas des citoyens,
pas
des animaux.
C'est pas les citoyens.
Ouais,
c'est pas les citoyens comme ça.
Non, ils se font traiter comme des animaux, puis comme s'il n'y avait aucune valeur. Ils se font pas traiter comme des humains. Puis il y a beaucoup de gens autour du monde qui se sentent de même en ce moment, puis qui se sentent interpellés. Puis nos dirigeants sont juste pas à l'écoute du tout de ces sentiments-là, de la majorité des citoyens du monde, je pense, en ce moment.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Ouais. C'est cool, notre conversation.
Pour vrai, oui. Pour vrai, oui. C'est cool, moi.
Moi, j'ai adoré, non, mais c'était-tu trop lourd?
Je vais te dire ce que j'ai dit souvent à ce show-là. Si t'es pas content, t'appuies sur pause, t'écoutes autre chose. Right. On met ça dans la gorge de personne.
Non.
T'as pas envie d'écouter. Et puis en plus, comment dire?
Je me sens tellement content d'en avoir parlé.
Mais tu sais...
Right.
Je pense que c'est intéressant. C'est cool d'avoir ton point de vue. C'est cool que ce soit sur Internet. C'est cool d'entendre. On entend rarement ce discours-là. Aussi, c'est un discours qui est très calme. C'est rare qu'on entende un discours calme par rapport à ça. Puis c'est pas une critique, hein. Je peux comprendre. Non seulement je comprends, mais je cautionne quiconque parle de cette cause-là avec rage et avec force. C'est tout à fait adéquat. Ouais. Puis tu l'as bien fait.
Je pense que je vois beaucoup de gens enragés en ligne. Beaucoup de gens, tu sais, blancs, de toutes sortes d'ethnicités, mais surtout blancs, enragés par ce qui se passe en Palestine. Je suis contente. Je suis très contente qu'ils gardent le discours vivant. Je suis très contente qu'ils s'affirment. Mais je pense peut-être que la raison pour laquelle il y a comme une rage qui feel comme nouvelle, ou je pense que c'est parce que c'est nouveau pour eux. Je pense qu'ils n'ont juste pas été élevés avec cette... En tout cas, je veux pas généraliser.
Mais je répète ce que tu as dit au début,
ouais.
Les images.
Ouais.
Avant, c'était des concepts.
Ouais.
Avant, c'était, ah, tu sais, il semblerait que dans une partie du monde, il y a un peuple qui a été tassé.
Right. 100%.
Puis là, quand tu dis, tu sais, ça, c'est plus intellectuel.
100%.
Mais quand tu vois des images...
C'est impossible à ignorer.
C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Hein? Au Vietnam, une des raisons pour il y a autant de manifestations, c'est qu'il y avait des images à la télévision de gens...
100%.
Vietnamiens, Américains qui mouraient, qui avaient des crimes de guerre, les gens étaient enragés.
Ouais.
Ils l'ont pas fait en Irak. En Irak, ils n'ont pas envoyé de journalistes. Il n'y a pas d'images. Fait que la rage était moins forte. Il y avait des manifestations, mais... Fait que... J'entends ce que tu me dis. Ouais, je comprends que si tu vis à Jonquière, que là, soudainement, là, tu partages plein de trucs sur la Palestine, d'où ça sort. Je comprends ça.
Ouais.
Mais les images sont quand même... Non, c'est difficile de rester silencieux.
100%. Mais je disais plus ça par rapport à... Je pense que c'est que peut-être t'es dans l'émotion comme brute de l'affaire parce que c'est quelque chose de choquant.
Mm-hmm.
Mais quand tu connais ce peuple-là, puis que tu connais leur histoire, puis que tu le vis depuis longtemps, puis que c'est pas de la nouvelle information, peut-être t'es pas dans l'impulsivité, comme du moins. C'est juste comme, c'est quand même quelque chose qui est arrivé de manière cyclique, moins pire que là, mais quand même. Fait que
non, c'est un étau qui se resserre.
Ouais, exact. Fait que je suis peut-être pas comme dans la rage, comme si je venais d'apprendre la nouvelle.
Ouais.
Je pense que c'est ça la différence.
Je comprends.
Mais... Veux pas, au début, mettons, on parle octobre, novembre et tout ça, c'était... Je pleurais plusieurs fois par jour, à chaque jour. Puis c'était moins de la rage, c'était juste de la pure tristesse parce que je sais que la rage peut être un véhicule de changement, mais je sais aussi que la rage peut créer d'autres divisions.
Ouais.
Puis je personnellement, c'est pas le chemin que je souhaite comme...
Emprunter.
Parce que je pense que, weirdly, quand t'es tellement en colère, puis là, tu deviens en colère envers peut-être les gens qui partagent pas assez de vidéos de bébés morts ou qui partagent pas assez d'informations sur le génocide, puis je les comprends. Je comprends cette rage-là parce que je l'ai vécu aussi à plusieurs moments. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée encore plus de division, tu sais, entre nous. Puis cette division-là, c'est la dernière fucking chose qu'on a besoin en ce moment. On a besoin d'être unis autour d'une idée, puis cette idée-là, c'est de sauver le peuple palestinien à tout prix.
Ouais.
Tu sais, fait que toute forme de colère ou de haine envers... Envers qui que ce soit, mais comme envers les autres qui sont aussi heartbroken par la situation, je vois pas l'utilité, pour être honnête. Il y a une utilité à la rage, mais je pense qu'il y a un danger, puis c'est la division comme... C'est d'aller plus vers la division, puis une division comme... qui va nous éloigner du but, puis qui va créer de la honte chez certaines personnes, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir encore moins envie de se prononcer. Puis il ne faut pas créer de honte, parce que tu ne peux pas tout savoir, puis tu ne peux pas être éduqué par rapport à toutes les spécificités de ce conflit-là. Il est complexe à
juste
la base, dans le passé.
Juste dire à quelqu'un c'est quoi la Palestine, c'est une longue réponse. Là.
C'est une très longue réponse. Mais après ça, j'encourage tout le monde à s'informer, à s'éduquer.
Mm-hmm.
Point final. Mais il faut faire attention pour ne pas shamer les gens. Parce que ce cycle-là de shame, tu ne peux pas shamer quelqu'un jusqu'à temps qu'il care. Ça n'existe pas.
Je comprends.
C'est comme faire sentir coupable ton ex de t'avoir laissé. Tu ne veux pas qu'il revienne avec toi parce qu'il se sent coupable. Il ne t'aime pas plus. Comme, je ne sais pas, comme si c'était une métaphore douteuse, mais c'est quand même ça. Tu ne peux pas... Tu peux pas shamer quelqu'un jusqu'à temps qu'il care. Ça se passera pas. Tu peux encourager les gens à s'éduquer, puis tu peux partager de l'information, puis toujours garder le discours comme actif, puis en parler avec tes amis, en parler avec ton entourage, mais créer de la honte chez d'autres parce qu'ils partagent pas autant de vidéos sur Instagram que toi.
C'est vain.
C'est l'absurdité des temps modernes, mais je pense que c'est pas... la solution vers l'unité. Puis je pense qu'en ce moment, il faut rester fort, il faut rester uni. Tu sais. Ouais.
C'est très bien dit.
Yes!
T'es incroyable!
C'était vraiment une bonne conversation!
T'es incroyable!
Toi, t'es incroyable!
Juste avant, tu fais de l'art.
Ouais.
C'est vrai? Tu fais de l'art. On la trouve où, ton art?
On trouve, j'ai un petit espace sur la rue Saint-Hubert. Au 6534 rue Saint-Hubert. Puis c'est un petit espace qui est devenu un peu plus comme une galerie récemment. Fait que je suis vraiment into des toutous thérapeutiques en ce moment pour nous aider avec notre anxiété, puis aider les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, les gens qui vivent des situations post-traumatiques, des gens qui vivent de la solitude. On est dans une épidémie de solitude en ce moment.
Amen.
Puis il faut vraiment prendre soin de nous, il faut vraiment faire attention pour pas trop s'isoler. Puis des fois, peut-être par incapacité de vivre de l'intimité ou par
avoir peur de se tromper.
Avoir peur de se tromper.
Puis on se trompe tout le temps.
Oui.
Moi, j'ai plein d'affaires que je trouve ridicule.
Ah, c'est simple. 50% des choses qui sortent de ma bouche. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'on a besoin d'une présence. Puis je sais pas, je crois fortement qu'on donne du sens à ce qu'on veut donner du sens dans la vie. Puis je pense que j'ai comme commencé à créer des personnages qui, pour moi, font beaucoup de sens. Puis je pense qu'on pourrait donner du sens à une tasse là, ou un jug, mais ça donne que les toutous, ça a comme une connotation, une présence mystique qui déclenche quelque chose dans notre imaginaire. Tu sais, on est beaucoup lié à ça dans notre enfance, c'était nos amis.
C'est charnel. C'est de l'art charnel, c'est très rare. Tu sais, c'est drôle parce que tu as commencé à faire de l'art visuel.
Oui.
Puis la première chose qu'on apprend, je l'ai amené à ma fille. Touche pas à toile, touche pas. Puis, je trouve ça beau que tu es passé de touche pas à mon œuvre. Tu peux la prendre, tu peux la toucher, tu peux la mettre dans ta bouche, tu peux l'arracher. Ouais.
100%. T'as raison, c'est un bon point.
C'est cool aussi de toutou, c'est que le toutou d'un va pas ressembler à l'autre par rapport à comment il manipule, comment il sert.
100%. Puis ils sont tous légèrement différents parce qu'ils sont tous fabriqués à Montréal. Wow. Fait qu'ils sont à la main, puis ils sont tous, tu sais, uniques. Fait que c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de sens à ma vie, honnêtement, ces temps-ci. C'est comme... Moi, je l'ai vécu. Je dors avec Kinzu, le nouveau toutou, en ce moment. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis ça apaise beaucoup ma solitude. Puis ouais, j'y crois. Je crois qu'on donne sens aux choses auxquelles on souhaite donner du sens. Puis pour moi, ce toutou-là, il fait beaucoup de sens. Puis j'espère qu'il va faire du bien à beaucoup de monde. Ouais.
Yeah.
Yes.
Là-dessus, vive la Palestine libre.
Vive la Palestine libre.